Moi, je suis d'avis d'en faire un de plus. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible.
Non, mais écoute, c'est...
Comment ? Collègues, si vous voulez bien prendre place. La séance est ouverte. Nous avons les pouvoirs de Madame Antoine pour Monsieur Leca, de Madame Debord pour Madame Jussiani, Michel Dufraisse pour Sophie Mailleux. Sophie. Ah, il y avait une réunion tardive du SDIS, mettons.
C'est Stéphane qui arrive, Eric.
Il paraît que le SDIS fait ses conseils d'administration le vendredi matin, tard. Qui préside le SDIS ?
Gauthier Brunner.
Ben, on va lui préparer un courrier très aimable et très sympathique, demandant à ce qu'il n'y ait pas de superposition. Alors, M. Garcia, Mme Dati, M. Jean-Pierre Urpo qui est souffrant, à Madame Franceline Denis, Jean-Pierre François Husson, Pierre Boileau, Elisabeth Laitier à Mathieu Dapp, Monsieur Misère de Villers à Serge Bouly, Madame Petiot à Gilbert Thiel et Lucienne Redercher à Marie-Catherine Talot et Didier Sartelet à Michel Canda. Alors, le docteur Marie-Odile Gann-Devenec à Madame Marie-Agnès Rouillon, Madame Nadia Sutter à Guy Alba, Madame Annie Lévy-Sifferman à Madame Stéphane Gruet, que je cherche. Monsieur Bertrand Masson jusqu'à son arrivée, Madame Chenez-Khirouni, Madame la Présidente, Madame Christine Simonet après son départ à Michel Breuil, voilà. Mes chers collègues, nous n'avons pas souvent l'occasion de nous incliner devant la mémoire d'une personnalité de tout premier plan. Je veux parler du professeur Michel Clodon, du CHU, décédé le 20 novembre à l'âge de 65 ans, des suites d'une maladie qui aura eu raison de lui en quelques mois. Ancien président de la commission médicale d'établissement, 2012-2017, Michel a découvert son mal à la fin de l'année 2017 et malgré le pronostic effroyable dont il était d'emblée conscient, il a décidé de poursuivre sans relâche et avec une détermination, une dignité qui force notre respect, son engagement local pour notre établissement et son engagement national au niveau de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de tous les CHU de France qu'il présidait depuis 2016. Il s'est en particulier investi sans compter jusqu'au bout de ses forces dans la mission ministérielle qu'il s'était vu confier sur le thème « Le CHU de demain » aux côtés des autres présidents des conférences, des directeurs généraux de CHU, des présidents d'université et des doyens. Le 5 novembre 2018, il rencontrait encore Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, pour échanger sur l'avancée de ses travaux. Lorrain d'origine, né à Pont-à-Mousson, Michel a débuté sa carrière en tant qu'interne des hôpitaux de Nancy en 1977 et fut nommé professeur des universités, praticien hospitalier en radiologie et imagerie médicale dès 1989, discipline où il est désormais classé en classe exceptionnelle, discipline aux destinées de laquelle il a présidé de 2010 à 2013 sur le plan national. En amont de son engagement à la présidence du CME, Michel était investi de longue date dans la vie de notre CHU, où il fut chef du service de radiologie pédiatrique, puis de radiologie adulte, puis chef du pôle imagerie de 2004 à 2009. Il était chevalier dans l'ordre des Pales académiques. Nous le saluons, nous avons une pensée pour sa famille. Nous avons beaucoup d'affection pour cet homme exceptionnel. Nous saluons sa mémoire et je vais vous demander une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie.
Passer la délibération 7 parce que Laurent s'en va.
Oui, je vais le faire. Nous demanderons d'ailleurs à Laurent Hénard, qui naturellement comme président de la conférence et des instances du CHU, de transmettre à la famille de Michel Clodon. Pardon si je tousse pendant cette séance, mais j'ai encore, comme tout ORL qui se respecte, les restes d'une rhinite, d'une pharyngite, d'une laryngite et d'une grippe. Laurent devant rejoindre les obsèques de Michel Clodon, je vais, avec votre autorisation, bien lui demander de rapporter les délibérations. Donc nous passons d'emblée à la délibération numéro 5, stratégie de développement économique, etc. Laurent.
Oui, vous savez que dans le sillage de notre projet de développement économique que nous avons adopté de manière unanime en décembre 2016, nous avons une série de partenariats. L'un, évidemment, porte particulièrement sur les actions partagées avec la Chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole et Meurthe-et-Moselle. Chaque année, nous examinons, bien sûr, la convention d'application annuelle de la convention de partenariat pour retenir les actions dans l'année. Cette fois-ci, il s'agit de retenir des actions que nous connaissons bien pour certaines, d'autres sont originales. D'abord, nous avons le séminaire d'accueil des nouveaux cadres et dirigeants qui permet d'avoir une action à l'échelle de la métropole. Nous avons le travail qui a été accompli avec les acteurs du secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, sur lequel la CCI a accompagné par l'évaluation, les études comparatives et l'offre d'ingénierie. Nous avons la présence sur le salon Go de la création et reprise d'entreprises, qui bien sûr permet d'y envoyer des entrepreneurs de notre région. Et nous avons enfin la participation, l'organisation des rencontres B2B. Vous savez, c'est une journée complète où les consuls généraux, notamment ceux installés à Strasbourg, qui sont en charge des affaires de développement économique des pays sur lesquels les entreprises Meurthe et Moselle ont des actions, ces consuls sont invités et sont mis en contact avec les acteurs économiques. Enfin, nous avons une journée du commerce qui permet notamment, par exemple, pour des commerçants nancéens qui souhaitent nouer des partenariats ou devenir franchisés, de rencontrer les enseignes, qui permet aussi d'engager des actions de sensibilisation, de formation, et qui permet d'avoir un accompagnement personnalisé aux initiatives économiques des uns et des autres.
Merci. Des observations ? Pas d'observations ? Adopté. Alors, stratégie de développement économique, convention entre la métropole et la Chambre des métiers de l'artisanat.
Alors, nous avons 45 000 euros de concours. C'est le même cadre qu'avec la Chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy Métropole et Meurthe-et-Moselle. Il s'agit d'une convention cadre. Et puis, annuellement, nous déclinons les actions concrètes sur une convention d'application. 30 000 euros sont postés sur des actions de soutien, en fait, au développement économique et notamment à l'entrepreneuriat ou à la reprise d'affaires. 350 porteurs de projets sont ainsi accompagnés par les services de la Chambre des métiers. Une trentaine de sessions ont aussi été accompagnées. Des actions nouvelles ont d'ailleurs été développées sur le sujet de l'accessibilité, hein, la mise aux normes d'accessibilité des locaux. Et là, une vingtaine d'entreprises concernées par la Chambre des métiers de l'artisanat seront accompagnées. Je rappelle que 15 000 euros sont aussi positionnés sur les actions en matière de développement durable. Vous savez que la Chambre des métiers et notamment son CNIDEP, sont particulièrement mobilisés sur ces sujets. Et nous avons donc un travail qui est fait pour impliquer des commerçants artisans sur le plan climat et énergie territoriale de notre métropole, comme surtout pour les sensibiliser et les amener à recourir au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, c'est à peu près 540, un peu moins, 539 professionnels qui sont concernés.
Merci. Pas de remarques, pas d'abstention. Adopté. Ensuite, ouverture dominicale de commerce.
Oui, il s'agit de mettre en œuvre la loi du 6 août 2015. Cette loi confirme le principe du repos dominical, ouvre certaines dérogations, avec notamment un dispositif qui doit mêler la politique commerciale coordonnée à l'échelle de notre métropole et les décisions individuelles de chaque commune. Alors, la législation est claire, hein, il s'agit d'avoir un dispositif coordonné, donc la métropole adopte un cadre. Dans ce cadre, qui est concerté préalablement avec les communes, les maires accordent bien sûr les autorisations d'ouverture dominicale. Le cadre sur lequel nous nous sommes entendus depuis 3 ans, puisque nous avons 12 dimanches possibles, et de définir un socle commun à l'ensemble des communes de la métropole de 8 dimanches, avec les 5 dimanches de fête de fin d'année pour 2019, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre, les 2 dimanches d'ouverture de sol, donc là nous serons sur janvier, le 6 janvier, pardon, 19, et le 30 juin 19 pour les soldes d'hiver et d'été respectivement, et puis à la demande des associations de commerçants, aussi bien les commerçants de centre-ville de Nancy que les associations qui coordonnent le travail dans les zones commerciales, une date avait été positionnée et toujours positionnée au printemps, le premier dimanche des vacances de printemps, où il y a une volonté des commerçants d'organiser une sorte de fête du commerce. Les 4 dimanches restants sont laissés à la discrétion des communes, en accord avec leur manifestation locale. La délibération précise quelles sont les communes qui entendent recourir au dimanche socle, toutes quasiment à l'exception de Tomblaine, qui ne souhaite pas utiliser la date du dimanche 7 avril. Et puis la plupart des communes proposent une, deux, parfois jusque quatre dimanches complémentaires à des dates variables en fonction des animations locales. Je rappellerai que les communes de Departement et d'Arthes-sur-Meurthe ne délibèrent pas puisqu'elles ne sont pas concernées, mais que néanmoins elles sont bien sûr associées aux réflexions et aux travaux sur la coordination de stratégie commerciale dont un des éléments vous est présenté aujourd'hui. Tout doit être bouclé avant le 31 décembre 2018, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle la délibération arrive maintenant. Derrière, il faudra ensuite que formellement les maires puissent prendre les arrêtés correspondants.
Très bien. Y a-t-il des remarques, Madame Chirouni? Appuyez sur le...
Laurent, tu peux parler. Merci, merci Monsieur le Président. Simplement rappeler pour notre groupe, les votes seront en fonction en fait de la cohérence des membres du groupe avec les choix de leur propre commune. Voilà, donc ne soyez pas étonnés que sur cette délibération, il puisse y avoir des votes différents. Et pour le groupe de Nancy, on votera en cohérence avec ce qui a été voté lors du dernier conseil municipal. Je vous remercie.
Merci de ces précisions qui traduisent à la fois la spécificité et la cohérence. Ça va, j'ai bien... Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, dernière délibération, Monsieur Hénard, avant qu'on vous libère pour aller aux obsèques. Dispositif zone franche... Attendez, il y a Malzéville avant.
Les Sablons.
Oui, j'ai des choses à dire sur les Sablons.
Monsieur le Président, donc il s'agit d'attribuer la concession d'aménagement de la ZAC des Sablons à Malzéville. Cette ZAC a été ouverte avant la loi du 20 juillet 2005 et de la jurisprudence qui en encadre la mise en œuvre et qui rend obligatoire les mises en concurrence et rend caduque lors de la date d'échéance de la concession passée les concessions convenues en gré à gré. Donc nous avons décidé, je vous le rappelle, le 17 novembre 2017 de poursuivre l'aménagement de cette ZAC des Sablons, la concession arrivant à échéance. Nous avons donc dû évidemment poursuivre ce projet dans le cadre de la législation de 2005. Ce qui veut dire que nous avons procédé évidemment à un appel à candidature et qu'une procédure de mise en concurrence a été exercée. La commission de concession d'aménagement s'est tenue le 22 juin dernier. Seul Solorem ayant répondu à la consultation, il vous est proposé au Conseil de désigner Solorem pour développer le nouveau contrat de concession qui est envisagé pour une durée de 10 ans.
Merci. Monsieur le Président, de ce rapport, je m'adresse au Président de Solorem. Je passe souvent dans ce secteur sur lequel j'ai eu quelques responsabilités. Je trouve que ce terrain en matière d'aménagement me semble peu convoité. Alors, je pense que c'est un très beau terrain en bordure de Meurthe qui intéresse beaucoup la municipalité, qui a pris les mesures d'urbanisme nécessaires pour reconfigurer cette zone. Mais la Solorem, j'aime bien, mais il faudrait, monsieur le président de la Solorem, lui faire une piqûre de rappel à ses objectifs, à la célérité et à la présence en liaison avec la ville de Malzéville. Je crois qu'il y a de très bons collaborateurs à la Solorem, mais je pense qu'avec l'aval de l'Assemblée, l'aval tacite de l'Assemblée, je pense que le directeur général de la Solorem et ses collaborateurs, tous au demeurant adorables et compétents, regarderont d'un œil plus éclairé peut-être la ZAC de Malzéville.
Oui, merci Monsieur le Président. Pour abonder dans le sens de ce que vient d'indiquer le Président de la Métropole, on a certainement un équipement qui n'était pas totalement en phase, en tout cas avec les attentes d'un certain nombre d'entreprises. En tout cas, dans le cadre du PLU de Malzéville, en lien avec les attentes aussi métropolitaines, nous avons redécoupé les parcelles de cette ZAC pour les rendre, je veux dire, attractives ou plus attractives. Et moi, je compte sur un soutien très actif, je parle commercialement parlant, de la Solorem, qui a démontré qu'elle était un excellent aménageur, mais qui, sur le plan commercial, pêche par quelques manquements. Et souvent, il nous arrive, c'est aussi notre rôle d'élus locaux, de faire les VRP sur le terrain, mais je souhaiterais qu'ils soient plus assidus. Et je l'ai déjà fait, c'est une remarque que j'ai déjà faite à la Solorem. On prendra notre part. S'il faut être plus présent encore, on le sera. En tout cas, on attend effectivement de la Solorem qu'elle nous aide d'un point de vue commercial. Quand il y a un prospect qui se manifeste, je pense qu'il ne faut pas le laisser en déshérence. Il faut vraiment, dans toutes les bonnes écoles de commerce, où c'est des réflexions de base, et en tout cas qu'on apprend dès les premières semaines de sa formation. Donc, oui, je compte sur votre soutien, Monsieur le Président de la Solorem, pour relayer ce message que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'ailleurs. Merci.
Tu veux ajouter quelque chose, non ?
Oui, je voudrais rappeler, c'est peut-être pas à moi de le faire, mais que Solorem est avant tout aménageur et pas commercialisateur. Que je pense on va resserrer, c'est la délibération qui vous sera proposée, sur laquelle d'ailleurs on a travaillé les maires concernés. On va vous proposer de resserrer le maillage commercial des différentes ZAC de la métropole. Vous verrez que par rapport à des objectifs qui avaient pu être fixés précédemment à l'échelle de la métropole, que ce soit dans nos documents ou dans le document du SCOT, dans le schéma de cohérence territoriale, on va réduire sensiblement les surfaces complémentaires pour développer de l'activité commerciale. Ça veut dire que ça rentre évidemment dans une logique plus globale que Michel Canta conduit, d'avoir une démarche analogue sur le bureau, les locaux d'activité. Je pense que ça permettra du coup de mieux situer cette ZAC dans l'offre générale de la métropole. Une dernière remarque, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, nous avons beaucoup de métropoles en cours. Je crois que le plan local d'urbanisme intercommunal peut être l'occasion de toutes les revisiter, pour voir comment, notamment à la lumière d'impératifs de transition écologique, de densification, d'aménagement éventuellement différent de ce qu'on avait pu envisager, beaucoup de ZAC, il serait utile qu'on puisse le faire. Voilà. Je crois que alors, ça a été fait à Malzéville, puisque vous avez révisé les orientations d'urbanisme et les parcelles cadastrales, mais je crois qu'on a une réflexion globale à avoir sur l'ensemble de nos ZAC et sur la vitesse, le rythme, les destinations et les équilibres budgétaires de celles-ci.
Serge Bouly. Oui, pour m'en être entretenu récemment avec le directeur de Solorem, on a fait le constat, effectivement, qu'il y a deux sites un petit peu en difficulté, entre guillemets, par rapport aux prospects. C'est les Savelons et c'est la ZAC du Neuf-Pont à la Neuville. Et un certain nombre de prospects existent. Les relances sont faites régulièrement par Solorem. Mais malheureusement, pour l'instant, ça a du mal à aboutir. Alors autant, à la limite, je peux le comprendre dans ma commune qui n'est pas directement reliée à une voie rapide, comme ça aurait dû être le cas avec le contournement de Saint-Nicolas-de-Port qui ne s'est pas fait. Autant les Savelons, on n'est pas très très loin quand même d'une sortie, et là... honnêtement, Solorem ne comprend pas les suites à donner. Alors peut-être que les nouveaux redécoupages apporteront des solutions, mais ces deux sites sont un peu difficiles, semble-t-il.
Un peu de sueur de chef, quoi. Allez, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté. Dernier rapport, Monsieur Hénard, dispositif zone franche urbaine, territoire entrepreneur, attribution de subventions.
Oui, alors Jean-Pierre Urpeau pourrait aussi bien que moi rapporter cette délibération. Je sais qu'il est souffrant. Parce que je l'ai vu au congrès des maires, il commençait à aller pas bien. Donc,
il était contaminé quand même.
Pour l'instant, on survit, mais c'est difficile.
Pour une fois, monsieur le maire de Nancy, qui était souffrant, j'ai jamais aussi bien assisté au congrès des maires que depuis mon fauteuil et sur LCP Sénat, quoi. Hein
ça sur va, la dématérialisation
voilà.
poursuit son œuvre.
Et c'est très instructif, d'ailleurs.
Donc je vous rappelle que nous avons plusieurs zones franches urbaines, hein, deux grandes zones franches urbaines installées sur le territoire de notre métropole, que des associations nous permettent d'accompagner le travail économique qui est conduit, alors soit des associations qui recensent les entrepreneurs, les soutiennent dans le développement de leur projet économique, leur expliquent aussi bien sûr tout l'intérêt du dispositif ZFU, soit des associations qui ont un travail un peu plus territorial, c'est regarder comment très concrètement, physiquement dans le quartier, l'entreprise bénéficiaire du dispositif zone franche urbaine peut s'installer, trouver des locaux, être épaulé dans les travaux ou dans les reconversions à faire. Vous trouverez dans les opérateurs, vous le verrez, et j'en terminerai par là, des opérateurs généraux de l'accompagnement d'entreprises dans la métropole. Je pense évidemment à des structures comme Alexis ou Lorraine Active, et puis des structures qui, elles, en revanche, sont beaucoup plus ciblées sur le travail en ZFU. Je pense à Nos Quartiers ont du talent, évidemment, qui est un réseau national, mais qui travaille sur le Grand Nancy. Je pense aussi à Starter, que tout le monde connaît bien, et qui, elle, est ciblée complètement sur notre métropole.
Merci. Y a-t-il des remarques? Pas d'opposition, d'abstention adoptée. On vous libère, monsieur le maire de Nancy, avec le message qu'on vous a transmis. Alors, on revient à la délibération numéro 1. Notre collègue Jean-Pierre Urpeau est au fond de son lit et il cède ses prérogatives à Chantal Carraro.
Oui. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit donc de la note de conjoncture de la ZAC Plateau de Haye. Donc ces 300 hectares de la ZAC du Plateau de Haye constituent une opération d'aménagement vraiment remarquable et emblématique. Elle s'inscrit dans les 600 hectares d'un projet urbain articulé autour de Habiter la forêt. Vous savez qu'on est très proche de la forêt de Haye. Et il s'agit donc d'une requalification des quartiers historiques de l'habitat social des Aulnes, du Haut-du-Lièvre, de Champ-de-Bœuf, qui sont toujours financés par l'ANRU et qui contribuent à recomposer une partie des territoires des communes de Laxou, Maxéville et Nancy. Par la requalification des espaces existants et par ses usages, par l'évolution de son parc de logements, aussi bien habitation à loyer modéré que promotion privée, de façon à développer progressivement une organisation résidentielle sur les nouveaux secteurs. Et puis aussi par son image et sa promotion grâce à la création d'activités économiques par le dispositif de zones franches urbaines territoire entrepreneur. Sachant que vous savez que la maîtrise d'œuvre de cette ZAC est assurée par le bureau des paysages Alexandre Chemetov et que l'urbanisation se poursuit par la préparation des terrains adaptés à l'accueil des nouvelles constructions envisagées au programme général et à procéder aux mises en état des sols nécessaires, bien sûr, de réaliser des équipements d'infrastructures, de voiries et de réseaux destinés à desservir les nouvelles installations et effectuer le traitement des espaces libres des secteurs paysagers. Cette note est complétée par le compte de clôture de la concession initiale qui a été arrêté au 28 février 2018, qui comprend le transfert de l'emprunt moyen terme d'un montant de 4 millions d'euros et le transfert d'actifs de 113 976 euros attribués à la Solorem par délibération de notre métropole le 26 janvier 2018. Il accompagne aussi le budget prévisionnel de l'opération de la nouvelle concession qui, pour un montant de 19 190 605 euros et d'un échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes, sachant que le besoin de financement de la métropole seront reportés à partir de 2022 pour un montant de 3 800 000, complété par une régularisation des montants de TVA au tard de 24 540 euros. Voilà. En ce qui concerne la trésorerie de l'opération, l'emprunt de 4 millions est transféré de l'ancienne concession vers la nouvelle. Et par ailleurs, les besoins de relais de trésorerie sont mobilisés à travers un crédit relais consenti par les organismes bancaires de la Solorem à l'intérieur de cette enveloppe d'un montant de 1,5 million. Voilà. Il vous est demandé donc d'approuver cette note de conjoncture et puis les différentes parties que je viens de mentionner.
Merci. Je voudrais peut-être compléter en saluant le travail qui est fait par les bailleurs sociaux, en particulier par l'Office métropolitain. C'est une des constantes, je dirais, de ce secteur. Il y a vraiment une qualité de partenariat interprofessionnel extrêmement positif et aussi un excellent travail avec l'ensemble du secteur associatif sur le plateau de Haye. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Alors, je vais maintenant donner la parole. On va attendre tout à l'heure Madame Jurin, mais il y a les rapports 3 et 4. Madame Debord n'étant pas là, Monsieur Hurpeau est en souffrance, et Madame Carraro qui rapporte la délibération 3 et la délibération numéro 4. Alors, Chantal.
Voilà, donc c'est la garantie d'emprunt en faveur du logement HLM par la banque des caisses des dépôts et des consignations,
voilà, consignation.
Qui a mis en place un nouveau dispositif financier en faveur de la construction et de la rénovation du logement social, qui sont qualifiés de hauts de bilan bonifiés. Ces prêts sont principalement destinés à favoriser la mise en œuvre d'investissements des bailleurs sociaux en accélérant les programmes. Ici, ce programme, on vous est demandé, le Conseil de métropole est sollicité pour accorder sa garantie à hauteur de 28,8% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 8 200 000 qui est souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et cette opération concerne la réhabilitation importante dans le parc existant sur les secteurs du quartier Mouzin Pré à Essay, un immeuble La Balance à Maxéville et le 25 rue du Général Leclerc et le 25B à 30 du boulevard du Recteur Seine à Nancy. Voilà, donc ce prêt permet d'assurer un haut niveau de qualité sur l'ensemble du patrimoine de Batigère en complément des opérations inscrites dans le nouveau plan de rénovation urbaine sur le quartier des Provinces à l'Axou et au Sonville Nation. Et avant d'œuvre Néancy.
Merci. Y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions? Adoptées. Garantie d'emprunt en faveur du logement, loyer modéré, banque, caisse d'épargne.
Voilà pour la caisse d'épargne. Donc là, la métropole est sollicitée pour la garantie à hauteur de 100% d'un prêt social à location accession d'un montant total maximal de 788 295 euros que Batigère Maison Familiale se propose de contracter auprès de donc la caisse d'épargne de prévoyance Grand Est Europe pour donc, je disais, 8 logements à Saint-Max.
Merci. Voilà, de ce travail élégant et complémentaire. Pas de remarques, pas d'opposition, adopté. Alors, ça étant un peu compliqué, en attendant Madame Jurin, je vais rapporter sur les modalités de transfert de l'Office du tourisme, Monsieur le Premier Vice-Président, à la SAPL Grand Nancy Congrès et Événements. Oui, Monsieur le Président. Par délibération en date du 21 septembre 2018, nous avons approuvé le projet de rapprochement entre Nancy Tourisme et Grand Nancy et Congrès et Événements et décidé de confier l'exercice de l'activité d'office de tourisme à la SAPL Grand Nancy Congrès et Événements. Il sera ainsi l'office intégré à compter du 1er janvier 2019 pour mener à bien ce projet structurant pour le territoire. Un accompagnement global des différentes étapes de la préparation du transfert des missions, des activités et du personnel de Nancy Tourisme au sein du Grand Nancy Congrès Événement est en cours. Le transfert de l'activité Nancy d'Office de Tourisme Métropolitain est défini comme suit. L'association sera dissoute à compter de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunira le 29 novembre 2018 sur première convocation, ou le cas échéant, le 13 décembre, s'il n'y avait pas de quorum. Dans le cadre des opérations de liquidation, le patrimoine de l'association sera transmis à la métropole du Grand Nancy avec effet au 31 décembre. Au 1er janvier 2019, la SAPL Grand Nancy Congrès Événements reprendra les missions et l'activité d'office de tourisme métropolitain dans le cadre d'une convention d'objectifs et intégrera le personnel de l'association. Aussi, dans cette perspective, la cessation d'activité de l'association Nancy Tourisme et sa dissolution sont en préparation. L'Assemblée générale extraordinaire de ses membres se réunira le 29 novembre 2018 ou le cas échéant le 13 décembre sur deuxième convocation pour approuver la dissolution, ouvrir la phase de liquidation et initier les procédures découlant de cette décision. Pour permettre au Grand Nancy d'organiser au mieux la transition et la transformation d'activités entre l'association et la SP, le cadre juridique de la transmission universelle des patrimoines a été retenu. Je passe sur les différentes modalités. Concernant les salariés, leurs contrats seront intégralement repris par la SAPL Grand Nancy Congrès Événements à compter du 1er janvier 2019. Il en sera également, sous réserve de l'accord des co-contractants, des divers contrats conclus avec des tiers et dont l'association est bénéficiaire et pour laquelle elle est prestataire. Par ailleurs, dans la perspective de l'intégration de cette mission par Grand Nancy Congrès Événements, les statuts seront donc modifiés. Vous avez naturellement la modification d'objet social, vous avez des modifications du règlement intérieur, et il vous est donc proposé, après avis de la commission attractivité, il vous est demandé d'approuver les modifications des statuts de la SAPL et de fixer à 20 le nombre minimum de membres du comité technique réunissant les acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles. Monsieur le Président, souhaitez-vous ajouter quelque chose?
Sinon dire que pour la SAPL, c'est devenu maintenant presque un exercice habituel, puisque nous avons dans un premier temps pris en compte l'ancien centre des congrès, qui était une association de 1901, puis le parc des expositions, ensuite le Convention Bureau et, pour en finir, l'Office de tourisme. Donc c'est une opération qui est parfaitement maîtrisée, où nous laissons une grande place, bien entendu, à l'humain, et j'avais assuré que nous prendrions acte de ce que chacun pouvait dire, pouvait souhaiter et pouvait trouver place dans l'organigramme. Nous sommes en... La dernière réunion avec le personnel s'est très bien passée, c'était hier matin, et nous attendons le retour de chacun par rapport aux fiches de poste qui ont été proposées. Mais tout cela est mené par Manmet, par Béatrice.
Merci. Je voudrais ajouter que ça termine en quelque sorte la stratégie de cohérence des outils chargés du rayonnement, de l'attractivité, que ce soit à travers le centre de congrès, que ce sera à travers la foire exposition, le bureau des événements et l'office du tourisme. On va être une des grandes structures en France organisée de cette façon, avec beaucoup d'efficacité et, je dirais, un travail simplifié pour un certain nombre de postulants à de l'information, à des locations et à de la gestion d'événements. Et je crois que c'est une bonne chose qui s'intègre dans notre combat pour une attractivité plus forte. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, le rapport suivant, c'est sur la Fondation Humanisme Numérique. Vous savez que le 8 juin 2018, nous avons approuvé la convention de création de la Fondation pour l'humanisme numérique, fondation abritée par l'Institut des sciences morales et politiques, l'une des académies constituant l'Institut de France. Cette approbation s'inscrit dans les orientations du projet métropolitain autour du numérique, apprivoisé en quelque sorte pour privilégier une approche résolument humaniste. En effet, la transition numérique interpelle à tous les niveaux, vie économique, culture, éducation, sociétale, et la création de cette fondation constituera à cet effet un espace d'approfondissement sur ces enjeux structurels et sociétaux. Le soutien et l'abri apporté par l'Institut de France est naturellement déterminant. Cette fondation a été dotée par la métropole du Grand Nancy de 25 000 euros au titre de l'exercice 2018. Il sera proposé le vote d'un même montant en 2019 afin d'amorcer son activité. Afin de répondre à la demande de l'Académie des sciences morales et politiques, faisant suite aux nouvelles dispositions souhaitées par le ministère de l'Économie et des Finances relatif au financement et fondations abritées, il doit être spécifié que l'essentiel des moyens affectés à l'objet de la fondation abritée, en dehors des montants d'amorçage, soit d'origine privée. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités à modifier l'article 3 de notre convention. De même, l'Académie des sciences morales et politiques souhaite que l'objet de la fondation soit davantage singularisé, que des compléments soient apportés aux objectifs de cette fondation. Enfin, l'Académie des sciences morales et politiques souhaite une nouvelle rédaction de l'article 6 relatif à la composition du conseil d'administration et en particulier en ce qui concerne la composition du collège de l'Académie. Alors, vous avez, je ne sais pas si je vais vous imposer la lecture de l'article 1 qui est le but de la fondation. Ça correspond d'ailleurs à ce que nous avons signalé souvent ici, le fait qu'il y a en matière, je dirais, d'accès au numérique, on compte aujourd'hui à peu près 13 millions de Français qui sont éloignés, je dirais, du numérique et de son usage à des fins familiales, personnelles, professionnelles, etc. Ce qui est un drame, et ce qu'il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir apporter des éléments de réponse. Troisième, donc vous avez la Fondation s'engage à soutenir plus particulièrement les réflexions et les actions liées à l'impact des transformations technologiques et numériques sur les développements urbains, économiques et culturels, j'ajouterais sociaux, de l'espace métropolitain. Le financement et les ressources de la Fondation, le paragraphe a ajouté, afin de pouvoir remplir son objet, la Fondation lèvera des fonds auprès des partenaires privés. Les fonds publics viendront conforter le budget de la Fondation, abrité à son démarrage. Il est convenu, ça c'est les demandes de l'Institut, que l'essentiel des moyens affectés à l'objet de la Fondation abritée, tel qu'est posé dans l'article 2, sont pour majeure partie d'origine privée. Ensuite, le conseil d'administration, composé de deux collèges paritaires, de trois membres chacun, le collège de l'Académie, composé du secrétaire perpétuel président du conseil d'administration, du secrétaire général et du directeur des services financiers ou de son représentant. Proposition de modification de texte. Le collège de l'Académie, composé du secrétaire perpétuel, du président du conseil d'administration et de deux membres de l'Académie. Le collège du fondateur, ses représentants sont désignés par le fondateur pour une durée de mandature renouvelable. En cas de partage des voix, la voix du secrétaire perpétuel est prépondérante. Voilà la délibération. Il vous est proposé, après avis favorable de la commission d'attractivité, de bien vouloir approuver la convention jointe en annexe qui se substitue à celle initialement approuvée, de confirmer le montant de la subvention accordée à hauteur de 25 000 euros pour 2018 et de m'autoriser à signer la convention avec les modifications exposées ci-avant ainsi que tout document y afférent. Voilà. Pas d'observation, pas d'opposition. Adopté. Alors, nous avons ensuite territoire d'innovation de grande ambition, projet des hommes et des arbres, les racines de demain. Monsieur François Werner.
Oui, sur ce sujet, nous sommes en pleine actualité. On a eu hier l'actualité des territoires d'industrie. J'y reviendrai parce que ça a son importance dans le dossier. Et nous avons à l'instant la sortie du fameux appel à projet dont la délibération vous annonçait la sortie pour la fin novembre. Donc il est effectivement sorti avec des caractéristiques qui correspondent à celles qui vous sont rappelées dans la délibération. Je vais les rappeler quand même assez rapidement parce que ça change, en tout cas ça influe de la constitution de notre dossier. Il y a bien une enveloppe de 450 millions, dont 150 millions de subventions et 300 millions de fonds propres, ce qui montre qu'il faut qu'on ait une candidature qui comporte les deux tiers d'apport et de travail privé. D'autre part, parce que ceci n'est pas rappelé dans ce communiqué-là, mais le communiqué sur les territoires d'industrie parlait de 300 millions pour les territoires d'industrie. Les territoires d'industrie, c'est une carte nouvelle qui vient de sortir, dans laquelle nous ne figurons pas, mais figure un certain nombre de nos partenaires, et en particulier la totalité des Vosges, par exemple. Donc, ça, on peut être éligible. D'autre part, le fameux appel à projet vous dit que sont prioritaires les territoires d'industrie qui mènent une action de revitalisation de l'industrie, les territoires menant des actions de revitalisation de leur centre, cœur de ville et centre-bourg, et les territoires agricoles en transition, ce qui, en superposant bien les trois, doit permettre de couvrir la totalité du territoire français, mais ça permet de faire un tout petit peu plus long. Voilà. En revanche, les thématiques sont assez claires. Transition numérique, énergie durable, mobilité propre, transformation du secteur agricole et du système de santé, ou encore adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail. Ceci nous indique, par exemple, que les branches santé de notre candidature TIGA ne pourront pas être éligibles à des financements, au financement prévu dans le TIGA. En revanche, c'est un élément de cohérence et en tout cas qui montre qu'on travaille sur la question générale. Il faudra chercher d'autres sources de financement. Donc, comme nous devons trouver des partenaires privés, nous activons évidemment dans cette direction et la délibération qui vous est proposée va dans ce sens, puisqu'il s'agit de conventionner avec le comité stratégique de la filière bois, communément appelé CSF Bois, qui est une part du Conseil national de l'industrie et qui en fait représente évidemment les professionnels du bois. Ils sont très intéressés par le schéma TIGA parce qu'ils voient une opportunité de bâtir des démonstrateurs qui permettraient de valoriser leur filière dans le contexte du changement climatique que l'on connaît et par conséquent de démontrer que c'est une construction dite durable. Ce qui vous est proposé, c'est de conventionner avec ce Conseil national de comité stratégique de filière bois, qui est une partie du Conseil national de l'industrie.
Merci. Y a-t-il des... Oui, je vous en prie.
Oui, Monsieur le Président. Donc, le projet TIGA, c'est un projet intitulé « Des hommes et des arbres, les racines de demain ». Donc, Monsieur le Président, vous nous avez fait rêver sur un projet qui prenait en compte les différentes approches complémentaires de la relation entre l'homme et la forêt. Tous les aspects devaient être pris en compte, de l'exploitation à la sylvothérapie. Mais là, nous sentons comme une sorte de malaise. Vous nous présentez une convention avec le CSF qui semble très réductrice par rapport aux ambitions du projet TIGA. On parle ici de revoir l'architecte du projet aux actions économiquement rentables, de priorités qui sont portées par l'État limitées au seul secteur privé marchand. Nous sentons donc une sorte de malaise dans cette délibération qui exclut entre autres les objectifs santé. À la fin même, vous rappelez les objectifs du projet TIGA qui doivent répondre au changement climatique pour faire de la forêt un levier de transformation écologique, projet auquel bien sûr nous adhérons. Aujourd'hui, le bois est à la mode. Beaucoup veulent se chauffer à la biomasse, carburant qui se renouvellerait. On veut construire des immeubles en bois qui seraient la panacée contre le réchauffement de la planète. Évidemment, cela n'est pas si simple. Les arbres poussent lentement. Et s'il n'y a pas un organisme qui gère globalement la forêt sur un territoire, sur notre territoire, on risque d'arriver à son épuisement et à la nécessité d'abreuver nos usines de chauffe avec des camions qui iront chercher le bois de plus en plus loin, à tel point qu'à un moment donné, on pourra se poser la question s'il ne vaut pas mieux mettre le fuel utilisé par les camions directement dans les usines de chauffe. L'histoire, d'ailleurs, risque de se répéter comme autant des verreries du XVIIe siècle qu'il avait fallu fermer faute d'arbres à proximité. On n'est pas opposé au principe de la biomasse pour les usines de chauffe, simplement il faut être extrêmement vigilant pour que, je dirais, notre ambition ne dépasse pas les capacités de la forêt. Autre souci, et celui-ci n'est pas mince, l'industrialisation de la forêt conduit à adapter l'arbre aux capacités de machines de coupe, moissonneuses d'arbres fabriquées dans les pays scandinaves, bénéficiant de forêts d'arbres de faible diamètre. J'entends bien que le CSF veut transformer les industries du bois vers de nouveaux modèles économiques. Néanmoins, on peut s'inquiéter. Lorsqu'il s'agit de développer de nouveaux produits, tourner vers le bois chimie ou le bois fibre. Je rappellerai que nous avons la chance d'avoir des forêts où les arbres sont un peu plus développés que dans les pays scandinaves et que c'est parfois malheureux d'utiliser ces troncs à d'autres choses que des objectifs plus nobles, entre guillemets. Est-ce bien cela donc que la métropole souhaite ? Merci, Monsieur le Président, de nous rassurer.
François.
Oui, je crois que on est convergent dans le diagnostic, à savoir qu'il y a bien sûr des missions et des filières d'intérêt général qui méritent soutien et intérêt, notamment dans ce domaine. Après, je crois que vous l'avez compris, mais là cette fois, la sortie de l'appel d'offres en lui-même et de l'appel à manifestation d'intérêt en lui-même est assez claire. C'est le genre d'exercice où, comme en patinage artistique, les premiers jours, on fait des imposés et puis après, on peut essayer de faire les figures libres. Là, on est dans les figures imposées. Et si on ne parvient pas à rentrer dans ce cadre, il y aura entre 15 et 20 projets sélectionnés. Il y a plus de 50 candidats. Si on dit non, mais nous, on veut casser les codes et ce qu'on veut, c'est 2/3 de financement public et 1/3 de financement privé, on va juste perdre. Donc je comprends la préoccupation. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'on se prive d'entourer, parce que c'est sa vertu première. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se prive d'entourer notre candidature d'explications et même de projets complémentaires que nous considérons comme partie intégrante de notre projet dans son ensemble. Mais là, il faut qu'on réponde à l'appel d'offres. Il faut qu'on réponde à l'appel d'offres pour gagner. Et je note avec satisfaction, pour cette fois faire de l'inconvénient que Manu relève au cas particulier une force, c'est que ces partenaires privés-là, on ne les avait pas au départ. Et que donc s'ils viennent, c'est qu'ils trouvent aussi leur compte dans ce sujet-là, et ce sont quand même les professionnels français du bois. C'est quand même des gens qui vont nous aider à construire un circuit court et une filière vertueuse qui, effectivement, c'est plutôt mieux de faire du bois construction que de la biomasse à très haute dose. Donc je comprends la préoccupation. On n'abandonne pas du tout un certain nombre de sujets. Je regarde Michel Canda, on a un travail avec les villes de Pulnoy et de Saulsure qui pourrait prendre place dans la démarche dans son ensemble. Mais dont on voit bien que pour trouver aujourd'hui des financements, c'est pas par le TIGA qu'on le financera. Mais en revanche, ça va renforcer le marqueur bois de la métropole du Grand Nancy et de son entourage. Donc, de toute manière, la démarche dans son ensemble nous positionne. Et effectivement, là, il s'agit de répondre, encore une fois, aux figures imposées des premiers jours et d'avoir le patin à glace qui ne dévie pas trop.
Moi, je partage en partie votre inquiétude. Mais toutes ces procédures d'appel d'offres, si vous voulez, d'appel à idées, etc., sont marquées souvent, on peut le regretter d'ailleurs, dans la méthode d'évolution itérative sur les périmètres, sur les modalités, etc. C'est pas, je dirais, des rapports contractuels bien régularisés, méthodologiques, etc. Il y a une part, je dirais, d'adaptation et l'État sur ces questions, d'abord il a du mal à sortir les projets et ensuite il est susceptible de variations. Alors moi j'ai bien entendu François, premièrement sur le problème du financement des secteurs santé. Je pense qu'il faut qu'on s'accroche à ce dispositif et qu'on réfléchisse à des moyens qui nous permettraient de pouvoir poursuivre dans ce domaine, parce que ça a fait lever beaucoup d'espoir. Il y a aussi la sylvothérapie, c'est important, même si c'est encore pas totalement répandu ou s'il y a des doutes. Mais en tout cas, toutes ces approches et ces usages de la nature, de l'arboriculture, de l'usage de la forêt, je vois par exemple dans l'ouest vosgien, pour répondre à votre remarque, il y a des hêtres qui ont un gabarit extraordinaire. Il n'y a pas de scierie à ce jour dans les Vosges, susceptibles de les traiter. C'est les Chinois qui viennent les chercher, qui les achètent, qui les emmènent, qui les scient chez eux et qui nous renvoient du bois, etc. Donc vous voyez qu'on a des adaptations qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, c'est aussi une première typologie de projets administratifs, économiques, financiers que l'État met sur le marché à travers cette formule d'appel à projet, dont il a la maîtrise. C'est pas un cadre précis. L'État se cherche aussi en fonction des sujets traités. Je pense qu'il faut rien lâcher de l'intérêt. Il faut continuer à se battre, parce que s'il y avait des doutes ou un fléchissement, je dirais, dans notre opinion sur telle ou telle partie du dossier, je pense que ça pourrait affaiblir la totalité de notre dossier au moment où c'est un concours. Donc, c'est avec tout ce que ça représente de complexité. Moi, je me bats, je reste optimiste. Je pense qu'en tout état de cause, il y a des parties qui sont très intéressantes dessous. On n'abandonne rien parce qu'il y a des gens qui, en faisant référence, comme vous l'avez fait, à ce qu'on avait déclaré, d'abord on l'avait déclaré de bonne foi, ensuite il ne faut pas désespérer. François Werner a ouvert la possibilité d'autres modalités de financement, en particulier dans le domaine de la santé, des recherches universitaires. Donc je pense qu'il faut y aller avec encore plus de pugnacité et encore plus d'efforts pour garantir la diversité et les modalités diverses de cofinancement sur la base, en tout état de cause, du franchissement de l'étape de la reconnaissance de notre inscription dans ce procédé au niveau national.
Monsieur le Président, donc nous allons soutenir, mais garder l'équilibre de ce projet, ça nous paraît indispensable.
Et vous avez le premier soutien, sera votre serviteur dans cet équilibre. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci de ce pari un petit peu sur l'avenir et sur le bois. Je pense que ce sont des sujets nouveaux, et pour le niveau national et pour nous, pour nos partenaires. On a eu un beau soutien du département des Vosges. Monsieur le Président de la Meurthe-et-Moselle, je vous fais discrètement, et personne n'aura entendu, un clin d'œil. Pardon ? Absolument. C'est déjà, vous rendez compte, quel symbole. D'ailleurs, je félicite le département pour cet objet exceptionnel, question et sa complexité. Mais je pense que vous m'avez laissé entendre ce jour-là que la Meurthe-et-Moselle et les Vosges étaient toujours mariés et qu'il n'y aurait pas de différence à l'arrivée. J'en prends acte. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. La suite, François Werner.
Oui, région architecture, c'est pratiquement la première invention de la nouvelle région, puisque dès l'annonce de la fusion des trois régions, à l'initiative de notre école d'architecture, il faut bien le dire, la volonté a été de construire quelque chose qui permette à la fois d'avoir plus d'acteurs, mais aussi d'avoir des projets qui soient mieux nourris et une visibilité qui soit plus grande pour le sujet de l'architecture en général. En un mot, notre région aujourd'hui, c'est 2000 entreprises d'architecture, 7 agences d'urbanisme, 7 CAUE, 3 grandes écoles et 3 maisons de l'architecture, mais aussi bien sûr des artisans, des constructeurs, des industriels qui vivent en bonne partie sur cette filière. L'idée, c'est, avec Région Architecture, c'est de renforcer la compétitivité de nos entreprises à travers une démarche de recherche, développement, innovation. Et c'est déjà bien parti, et d'avoir là aussi une visibilité de notre territoire sur le sujet. Et puis, c'est promouvoir les talents régionaux pour consolider notre image de marque en architecture. Donc, ce qui vous est proposé, c'est tout simplement d'adhérer à la dite association, d'y verser la cotisation de 4 000 euros et de désigner un représentant. Pour info, il y a déjà eu beaucoup de manifestations de région architecture, et en particulier l'élaboration d'un livre blanc qui était particulièrement fouillé. Il y a beaucoup de boulot, ça marche très bien.
Merci. Des observations? Moi, je voudrais en faire une. C'est une réponse intelligente aux fragilités de la loi Elan sur le logement social, qui fragilise un peu la présence professionnelle des architectes dans cette élaboration de projets, qui, les architectes n'étant plus en tant que tels dans le logement social a appelé, mais étant partie prenante des groupements de construction, etc. Ce qui enlève, à mon avis, une part d'espace de créativité. Et il est important de conserver un monde où l'architecture, en tant que spécificité, a toute sa place dans toutes les formes de construction. Alors, j'ai sur ce sujet, qui est très important parce qu'il va bien au-delà de la construction dans le domaine social, c'est la fragilité de la profession, et je me réjouis de cette proposition qui nous permet d'associer beaucoup de partenaires pour être à la fois partenaire, à la fois soutien et prise en compte des problèmes de la profession et des problèmes de la formation des élèves architectes. J'indique que le débat aujourd'hui a suffisamment progressé pour qu'une mission soit confiée au ministère de la Culture, ministère de tutelle des écoles d'architecture, et pour essayer de dissiper les difficultés ou les malaises qui pourraient survenir après le vote de la loi Elan. J'ai rencontré personnellement les représentants du ministère de l'Architecture qui travaillent sur cette approche. J'ai prévu de saisir, à leur demande d'ailleurs, pour les soutenir, le président de la République, parce qu'il y a là une mesure d'intérêt, je dirais, dans la durée, qui dépasse, je dirais, les politiques conjoncturelles. On est donc bien sur une approche, je dirais, intéressante, d'où la légitimité qui est la nôtre d'être en ce groupe Grand Est, mais aussi d'être très attentif à ce qui s'y fera. Donc, monsieur, je vous propose que François Werner nous y représente, c'est, à moins qu'il y ait d'autres candidatures, ce qui pouvait tout à fait se légitimer. Il n'y en a pas. Monsieur le maire de Vendeuvre n'est pas candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Donc je vous propose deux choses. D'abord de ratifier la délibération, puis ensuite de mandater François Werner pour nous représenter dans cette docte assemblée Grand Est, comme par ailleurs ça recoupera ses emplois du temps, pourra y aller avec une élégance dont on ne doute pas. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, nous arrivons à l'avenant numéro 1, aux conventions de partenariat avec les associations sport nautique et de Nancy Aviron et Canoë Kayak. Monsieur Pinsalfini.
Oui, monsieur le président, nous avons effectivement un partenariat avec les deux associations qui sont locataires de notre équipement, le pôle nautique. C'est donc l'association L'Aviron et le kayak. Malheureusement, vous le savez, des travaux ont été entrepris sur la Meurthe, avec en particulier les travaux de vidange, qui viennent se coupler avec, comment dirais-je, des fortes chaleurs qui ont eu lieu cet été, et donc qui ont fait que ces deux clubs n'ont pas pu exercer correctement leur discipline à destination des jeunes, en particulier des familles. Bref, ce qui a généré chez eux une perte financière non négligeable. Donc on vous propose une aide exceptionnelle à hauteur de 2500 euros pour ces deux associations dans ce cadre bien précis.
Parfait. Pas de remarques des sportifs. Tout va bien. Pas d'opposition. Adopté. François Werner, Artem. Avenant à la convention de financement avec la région Grand Est.
Oui, c'est une délibération technique, c'est juste une modification des rythmes de versement liés à la prorogation du délai de clôture du programme. Il n'y a pas de modification des montants.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. François Werner, développement universitaire, vie étudiante, attribution de subventions.
Une série de soutiens conformément à nos règlements et habitudes.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Madame Leroy, Conservatoire régional du Grand Nancy, convention de partenariat entre la Métropole et le Centre dramatique national Nancy-Lorraine, la Manufacture.
Merci, Monsieur le Président. Il faut savoir que dans le cadre de son projet pédagogique et de par sa labellisation comme conservatoire à rayonnement régional par l'État, Le Conservatoire du Grand Nancy a vocation d'ouvrir son champ d'application à différentes esthétiques et à des enseignements artistiques variés et est tenu de promouvoir le développement de celles-ci en s'associant aux structures de diffusion situées sur son territoire. Il en est ainsi pour la pratique du théâtre avec le théâtre de la manufacture. C'est pourquoi il vous est proposé d'approuver la convention entre le Conservatoire du Grand Nancy et le Centre dramatique national Nancy-Lorraine, la manufacture, pour l'année scolaire 2018-2019, sachant qu'elle pourra être renouvelée pour la saison 2019-2020 en fonction de la programmation artistique.
Merci. Pas de démarche, d'inquiétude, pas d'opposition, adoptée. Conservatoire du Grand Nancy, rémunération et indemnisation des jurys et des intervenants.
Oui, délibération assez technique, mais il faut savoir que parmi les temps forts de l'activité du conservatoire, il y a les examens de fin de cycle et pour certains niveaux et disciplines, des concours d'entrée. Les jurys de ces concours et examens sont composés de membres extérieurs à l'établissement sous la présidence du directeur du conservatoire. Les modalités de rétribution et de prise en charge des frais datant de 2008, il convenait aujourd'hui de les réévaluer. C'est pourquoi il vous est proposé d'approuver les grilles tarifaires comme détaillées dans le corps de la délibération concernant les concours ainsi que l'indemnisation des intervenants aux manifestations artistiques.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition, abstention. Nous abordons ensuite un chapitre intéressant au rapport de Mme Dati sur la procédure de délégation de services publics de mobilité urbaine, approbation du choix du délégataire et du contrat. Le rapport et les documents ont été transmis par envoi séparé en date du 7 novembre, puisqu'il est légalement nécessaire de les envoyer 15 jours au préalable. Alors, sur ce sujet important, je voudrais, avec l'accord de Malika Dati, vous exposer quelques propos liminaires parce qu'on est sur un dossier qui n'est pas simplement un simple dossier local, mais qui est un dossier en rapport avec l'évolution de la société, en rapport avec, je dirais, les textes législatifs au plan national. Et ce nouveau contrat arrive à un moment particulièrement riche et opportun en matière de mobilité. Vous savez que de plus en plus, et ce n'est pas neutre dans le débat, on parle de mobilité et non pas forcément de transport au sens technique. Sur le plan national, le projet de loi d'orientation et mobilité devrait être présenté en Conseil des ministres d'ici quelques semaines et soumis au vote du Parlement au cours du premier semestre 2019. Ceci est très important pour nous parce que la concordance entre ce débat parlementaire qui inscrit non pas les transports mais les mobilités, la diversité des mobilités et tout le débat, je dirais presque sociétal et culturel autour des mobilités est important. On connaît toutefois déjà quelques grands axes qui sont du plus vif intérêt pour nous et nos projets. La priorité au transport du quotidien, ce qui est naturellement pour nous déterminant. L'importance donnée au développement des mobilités actives dans toutes leurs formes, en particulier pour le vélo. Une reconnaissance croissante des autorités organisatrices de transport qui deviennent autorités organisatrices de mobilité. Un rôle accru pour la région pour organiser les mobilités à l'échelle de bassins de mobilité en cohérence avec le schéma régional d'aménagement et développement du territoire dont elle finalise l'élaboration. En ce qui concerne notre métropole et son bassin de vie, il y a la concrétisation du projet de nouveau tramway dont le dossier d'enquête publique sera soumis au vote du prochain Conseil. Un projet complet et ambitieux dont l'intérêt dépasse largement notre périmètre métropolitain. Il y a les communautés de communes qui sont nos voisines et que nous avons toutes rencontrées à l'occasion de l'élaboration de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Et je voudrais saluer le travail de Michel Candat, de toutes ses équipes qui nous ont permis ainsi de rencontrer aussi bien nos amis de Pompey, de Neuve-Maison, de Dombasle, du Grand Couronné. Et ça a été très riche en termes d'enseignement,
Ils nous ont écoutés, nous les avons écoutés parce qu'ils ont aussi, eux, des démarches et la rencontre a été juste et réciproque et se concrétise, se dessine en quelque sorte un bassin de mobilité qui va au-delà des limites de la métropole et qui concerne l'ensemble du bassin de vie. Il y a l'étude mobilité, une étude mobilité qui va être lancée par le syndicat mixte des transports suburbains, c'est-à-dire l'ensemble avec la métropole des intercommunalités de Pompey, de Neuve-Maisons, de Dombasle et de Grand Couronné, pour pouvoir regarder comment, ensemble, nous allons développer, je dirais, des formes de synergie, de complémentarité, et surtout faire en sorte que le périmètre de la métropole ne soit pas un périmètre de coupure, mais soit au contraire une ouverture sur ce bassin de vie. Et il y a cette étude qui a été validée à l'unanimité dans le cadre du syndicat mixte qui est engagé et qui pourra venir compléter nos informations sur cette stratégie des mobilités dans notre grand environnement. Les objectifs de cette étude sont de proposer ensemble des services de mobilité plus performants au bénéfice des habitants de tout notre bassin de vie et d'évoluer en termes de gouvernance pour renforcer cette efficacité. Il est le résultat d'une procédure longue et complexe et un travail considérable. Je parlais de notre projet. La procédure a été lancée début 2017, soit un an et demi de travail, de consultation et de négociation. C'est au total un travail considérable et je voudrais remercier avec beaucoup de force tous les acteurs de ce partenariat, aussi bien les élus. Je voudrais signaler le travail très important de Malika Dati, mais aussi de Serge Bouly, qui ont suivi de très près ce dossier, aussi bien de la part des candidats que des élus et des services de la métropole. Des offres qui ont été sérieuses, consistantes et performantes, que les candidats n'ont eu de cesse d'améliorer tout au long des négociations. Et Malika Dati reviendra plus en détail dans quelques instants. Il convient donc là aussi de saluer son travail, celui des élus, celui des maires de la métropole dans leur diversité, et également le soutien de Serge Bouly, qui a été sur cette affaire très, très proche et très compétent. C'est un dossier qui est au cœur de l'esprit du projet métropolitain. Les dossiers sur lesquels nous allons avancer, vous le verrez, sont progressivement en phase avec le projet métropolitain, projet de société, je le rappelle. Une métropole, c'est d'abord de multiples polarités, centres d'intérêt et d'activité, et ce sont des interconnexions. Il n'y a pas de métropole sans de bonnes connexions entre ses acteurs, ses habitants, ses opportunités d'emploi, de loisirs et de créativité. Rappelez-vous, je le dis pour Serge Bouly, il y avait une des forces, je dirais, dans ce projet métropolitain, c'est le sens du défi des liens de notre projet métropolitain récemment adopté. Un bon réseau de transport est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, pour une métropole des liens. Et c'est un contrat en quelque sorte inédit, en ce qu'il inclut trois phases. Un premier temps d'exploitation du réseau de transport public, incluant la ligne actuelle de tramway que l'on connaît, le TVR. Oui, parce que pendant les 6 années qui sont devant nous, la durée de ce contrat, il y aura ce premier temps d'exploitation avec le TVR. Un deuxième temps d'exploitation du réseau sans le TVR qui aura été arrêté, pour laisser la place aux travaux de construction du nouveau tramway avec un réseau de bus de substitution. Et puis un troisième temps d'exploitation du réseau restructuré, incluant le nouveau tramway à partir de sa mise en service. On voit bien que la cohabitation à travers ce contrat d'étapes successives, mais qui vont entraîner pas mal de perturbations d'ailleurs, dans le fonctionnement de notre métropole. Il en va ainsi chaque fois qu'un grand projet de transport et de tramway notamment est entrepris dans une métropole. Malika détaillera dans son rapport les critères qui ont conduit à la décision, mais je souhaite vous faire part des éléments qui m'ont particulièrement séduit. Premièrement, un véritable projet d'entreprise dans toutes ses composantes, notamment managériales. Une ambition pour la métropole et au-delà avec une offre de transport moderne et performante. Une appréhension globale de la mobilité et des différentes mobilités dans leur ensemble. Pardon. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout de mon texte. Le 1er janvier prochain, le nouveau délégataire prendra en main le réseau dans la continuité de celui qui existe. Le 1er janvier, les services seront assurés comme cela est prévu dans les grilles d'horaire de toutes les lignes. Nous avons veillé que le choix du délégataire ne se fasse pas sur la base d'un dumping financier et social. Ce n'est clairement pas le cas. Il n'y aura pas de plan de licenciement, pas de plan de sauvegarde de l'emploi. Le Code du travail protège la plus grande partie des salariés, hormis ceux dédiés à l'encadrement, qui par nature attachés au groupe qui les emploie. Je sais que chacun à sa place dans ses fonctions et avec son expertise métier saura faire preuve de responsabilité, de professionnalisme pour que la transition, on pourrait dire la transmission, se passe dans les meilleures conditions. Enfin, et c'est peut-être le plus important, qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas aujourd'hui de voter pour adopter un réseau de transport. Il s'agit d'approuver le choix du délégataire ainsi que le contrat qui le lie pour 6 années à la métropole. Le réseau proposé par le nouveau délégataire entrera en vigueur à la rentrée de septembre 2019. La métropole engagera en janvier, pour une durée de 4 mois et avec son nouveau délégataire, une importante période autour de laquelle, ensemble, seront présentées les propositions de nouveaux réseaux et expliquées la philosophie et les principes qui ont présidé à son organisation. C'est aussi de la consultation, c'est de l'écoute et c'est de la mise au point du réseau. Cette période permettra aussi et surtout de conduire avec les maires des 20 communes de la métropole et les citoyens que ceux-ci voudront associer une consultation approfondie. Celle-ci débouchera sur la mise au point finale du nouveau réseau sur la base des marges de manœuvre qui ont été prévues pour cela dans le contrat en vue de sa mise en place à la rentrée de septembre 2019. Pour clarifier et compléter en quelque sorte les échéances, j'ai un amendement que je dépose pour vous proposer d'ajouter un 7e point de délibération, d'approuver la constitution d'un groupe de travail mobilité à partir du 1er janvier sur les 5 premiers mois de l'année, animé par Malika Dati, et de lui confier à ce groupe, un peu comme on l'a fait, rappelez-vous, sur, je m'adresse à notre collègue Chosereau, sur le groupe spécifique chargé de la montée à Brabois. Là, on sera sur l'ensemble de l'agglomération. Il n'y aura pas de reproduction systématique des schémas antérieurs. Il y aura beaucoup d'innovations possibles. Donc, d'approuver la constitution d'un groupe de travail mobilité animé par Mme Malika Dati, de lui confier la charge de conduire les travaux de mise au point du nouveau réseau avec les communes et le délégataire à l'échéance du mois d'avril 2019 pour validation en Conseil métropolitain en mai 2019. Autrement dit, choix d'un délégataire aujourd'hui, groupe de travail transversal largement ouvert et notamment avec la responsabilité des maires et des spécialistes de chacune des communes qui voudront bien intéresser. 4 mois de travail de concertation, validation du projet de ligne de transport avec, je dirais, l'entreprise au mois de mai. Et on est donc bien sur une 2e étape sur laquelle il faut garder du sens, du souffle, de l'envie et de la méthode pour faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Voilà, je vais passer la parole à Malika Dati en la remerciant une fois de plus.
Merci, Président. Mes chers collègues, alors, aujourd'hui, il s'agit du renouvellement de la DSP Transport, sachant que ce renouvellement fait l'objet d'un travail émanant d'un cahier des charges, d'un document de consultation d'entreprise qui a été fait il y a maintenant plus d'un an. Et depuis un an, comme vous le voyez, en matière de mobilité, beaucoup de choses changent, ou ont changé et vont changer. Puisque, comme vous le savez, la loi sur l'orientation des mobilités passe en Conseil des ministres mercredi prochain. Et on sait bien que les ressorts de cette loi, un des ressorts, c'est la mobilité du quotidien. Le 31 mars 2017, le Conseil métropolitain a délibéré sur le principe de la délégation de services publics comme mode de gestion et d'exploitation du service public de la mobilité urbaine de la métropole pour une durée de 6 ans, 2019-2024. Le Conseil a approuvé le lancement de la procédure. Le 6 juin 2017, ce fut la date de remise des candidatures. Deux plis ont été reçus et ouverts par la commission de délégation de services publics le 8 juin 2017 qui agrée les deux candidatures. Donc deux candidats, Keolis et Transdev. Le 19 avril 2018, la commission a rendu son avis et permis l'ouverture des négociations. Par arrêté du 30 avril 2018, le président m'a mandaté, assisté de Serge Bouly, à mener les négociations. Huit réunions du 16 mai 2018 au 6 septembre dernier, donc avec la dernière réunion, avec la présence du président de la métropole, avec un aller-retour, bien évidemment, avec le président pour émettre les avis et de faire une synthèse. C'est huit réunions qui se sont passées dans le respect total des différents partenaires et plus de 60 heures de négociation entre le mois de mai et le mois de septembre. Les deux candidats ont remis leur offre finale le 18 septembre 2018. Le contrat comprend trois phases d'exploitation et de gestion commerciale. Je tenais à juste apporter une précision. Ce fut un dossier très complexe. Pourquoi ? Parce que nous avons eu trois périodes sur la négociation. Autour de ce dossier, c'est la résultante qui fait l'objet de plus de 1000 pages. Et nous étions autour de ce dossier à peu près une centaine de personnes. C'est entre les élus, les services que je remercie, les techniciens, les experts, autour des différents délégataires. Les offres sont analysées sur la base des trois critères et de 14 sous-critères. Je tiens à rappeler que les deux offres des deux candidats ont été d'une très grande qualité. Sur chacun des trois critères, l'offre de Keolis est sortie la meilleure en remettant l'usager au cœur d'un projet de mobilité grâce à un projet d'entreprise impliquant tous les niveaux de l'entreprise pour la qualité rendue dans le cadre d'un service public. Donc, Keolis a également mobilisé plus d'une cinquantaine d'experts et de personnes pour analyser, formuler les recommandations adaptées aux spécificités de la métropole en matière de transport, déplacement et mobilité. Sur le premier critère, alors je rappelle que, comme je viens de le dire, que les offres ont été d'une grande qualité, mais il s'agit là d'une, quelque part, entre guillemets, ou autre, d'une compétition. Ce n'est pas un examen, c'est un concours, c'est une compétition, donc sur l'ensemble des critères, Keolis est arrivé devant. Pour le premier critère, un objectif de performance globale. La contribution financière qui était fixée par l'autorité délégante, à savoir la métropole, les deux candidats ont respecté les plafonds fixés par la métropole, donc sur une contribution, ce qu'on appelle CFF, de 43 à 38 millions d'euros en fin de contrat. Les recettes sont plus élevées chez Keolis, avec une tarification moins cher et un engagement de fréquentation plus élevé, puisque nous arrivons sur la fin du contrat à plus de 25%. La qualité de service, Le contrat défini par la métropole met en place des fortes incitations à assurer le service qui est donc défini et qui pénalise sévèrement les manquements, c'est-à-dire les services non faits ou les kilomètres non faits. Keolis propose également un panel de solutions plus diversifiées avec un service de qualité et moins cher. Les bus roulent plus dans le projet Keolis et le parc nécessaire est donc inférieur puisque le parc, c'est-à-dire le parc roulant, est mieux rempli. Pour le programme pluriannuel de l'investissement, il est moins important chez Keolis. Alors, comme vous le savez, Keolis a un partenariat avec Bombardier pour auditer le matériel TVR, puisque comme vous le savez, nous avons récupéré également des rames de la ville de Caen et l'expertise de Keolis sur la ville de Caen. La remise à niveau afin d'assurer la fiabilité avant les travaux. Donc on le voit également, je viens d'en parler sur Caen, ce fut un véritable succès, donc accompagné d'outils de suivi et de gestion de maintenance, où il y a un véritable investissement. Pour les services, c'est-à-dire en matière de transport, déplacement et mobilité. Alors, un opérateur aujourd'hui en matière de transport ne gère pas uniquement les modes de transport, il gère les déplacements. Et dans ces services proposés par Keolis, nous avons trois lignes structurantes, plus la quatrième, puisque avec Christophe Chauzereau, qui est en charge des études sur le tramway, le nouveau projet de tramway, fera que les trois périodes, avant les travaux, pendant les travaux et après l'arrivée du tramway, qui va être une véritable locomotive et l'impact aussi bien sur la dimension économique et sociétale, puisque ça va être un outil puissant où Keolis, justement, mise sur cet outil pour pouvoir connecter l'ensemble des lignes structurantes en rabattement sur 80% sur ces lignes et 20% sur les territoires peu denses. C'est-à-dire que l'objectif, c'est comment attirer un maximum de nos concitoyens sur des lignes fiable, de qualité, qui permettra de dégager de la valeur ajoutée afin de répondre de façon concomitante à des réponses dans des territoires peu denses par des propositions, par des réponses qui sont davantage personnalisées. Alors, ces services personnalisés, donc aux besoins, j'en cite quelques exemples, vous avez le transport à la demande. Exemple Rezago, avec aussi bien un rendez-vous temporel, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans l'offre de Keolis, c'est que l'usager est au cœur du dispositif sur un chronos, c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas à 18h, elle ne s'arrête pas à 20h, elle ne s'arrête pas à 21h, elle s'arrête, je dirais, au moment où les usages s'arrêtent. C'est-à-dire que en matière de temporalité, il y a des personnes qui travaillent très tôt le matin, donc service personnalisé à partir de 5 heures du matin. Il y a des personnes qui sortent le soir ou qui travaillent très tard, jusqu'à minuit et demi, on peut rentrer. Et puis, sur une phase aussi, puisqu'on rappelle que notre métropole accueille plus de 50 000 étudiants, qui a une vie nocturne, c'est-à-dire sur un week-end, jeudi, vendredi, samedi, permettre à nos étudiants de pouvoir sortir et d'avoir une vie acceptable sur notre territoire. Donc le temps est important puisqu'on change de paradigme. On n'est pas uniquement sur une gestion de déplacement de personnes, mais on est bien sur des gestions de déplacement de flux et de trafic. On ne rentre plus par la porte uniquement du statut de l'usager, mais sur une analyse comportementaliste de comment il vit sur son territoire, où est-ce qu'il se déplace et comment il vit. Je rappelle que moins de 50% aujourd'hui des personnes se déplacent sur un axe domicile-travail. Donc, ce qui veut dire que l'autre moitié ne se déplace pas forcément sur le flux, sur l'axe domicile-travail. Donc, toutes ces analyses-là, nous les avons ressenties au travers d'une expertise plus saillante présente, plus insistante et plus prégnante auprès de Keolis. Donc je parlais tout à l'heure des services, par exemple, de soirée jusqu'à minuit et demi sur les lignes structurantes, un départ toutes les heures entre 21h30 et minuit et demi depuis la gare vers tous les secteurs qui ne sont pas desservis par les lignes structurantes. Les lignes de nuit, je viens d'en parler, pour une population étudiante ou pas, mais qui permet d'avoir une véritable réponse et qui est très attendue d'ailleurs par la cible étudiante. En matière d'innovation, alors sur des innovations plutôt, je dirais, technologiques, en avance, puisqu'il faut qu'on prenne nous aussi le train qui est en marche pour être en adéquation et au rendez-vous par rapport aujourd'hui à ces innovations, en matière de tests, et puis de trouver des solutions qui permettra de trouver aussi la population qui est en attente, et fortement en attente, et qui formule ses besoins et qui sont exprimés depuis maintenant un certain temps. Alors, en titre d'exemple, des navettes électriques, notamment sur Deville-Centre, puisque nous constatons, d'après les études, et puis je dirais, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, mais nous avons deux villes avec deux communes avec une forte centralité, qui sont Nancy et Vendeuvre. Donc demain, il y a aussi d'autres tâches, c'est-à-dire d'autres pôles périphériques qui permettra de faire déplacer et d'accompagner les déplacements sans forcément entrer dans les centres-villes et notamment sur la ville de Nancy par un contournement et une connexion soit en liane, soit en flux direct, puisque sur le temps, de ne pas faire descendre des personnes, mais de pouvoir, par exemple, se diriger sur des pôles commerciaux comme la Porte Sud ou la Porte Nord, et avec deux lianes périphériques qui permettra de pouvoir faire la jonction entre différentes communes sans passer forcément par les centres-villes, mais qui pourront aussi rabattre ces personnes sur les grandes lignes structurantes et notamment à partir de l'arrivée du tramway. Ce qu'on appelle les lignes express vers les zones d'emploi, les lignes corolles de périphérie, des lignes également mutualisées, c'est-à-dire sur des transports scolaires, nous pourrons accueillir demain, au-delà des scolaires, d'autres personnes qui, puisqu'il y a un bus qui passe, de pouvoir également profiter des espaces qui sont, je dirais, disponibles pour pouvoir faire monter nos concitoyens. Et puis, des études de satisfaction clientèle, c'est-à-dire que la philosophie, la politique managériale, la politique stratégique, la politique qualitative, ce qu'on appelle une stratégie de dauphin, existe dans cette entreprise qui prend le pouls à chaque moment sur l'usage, les comportements, les besoins, les attentes en temps réel de nos concitoyens par rapport à l'usage, au déplacement dans différents dispositifs. Et j'étais très attentive à ce qui se fait d'ailleurs sur Bordeaux. Un outil numérique qui permet de valoriser la complémentarité sur le réseau urbain. D'autres paramètres également, c'est que l'accompagnement se fait aussi sur d'autres formes de mobilité, ce qu'on appelle bien sûr la mobilité ou les mobilités actives, où nous retrouvons le vélo avec un déploiement sur une option qui permettra demain de pouvoir connecter directement les transports en commun avec des vélos, notamment vélos assistance électrique, et des cheminements piétons, puisqu'il faut donner une identité au territoire pour pouvoir permettre à nos concitoyens d'avoir une lisibilité au niveau du parcours. Sur cette lisibilité, elle peut être à la fois numérique, c'est-à-dire virtuelle, mais aussi physique, puisqu'il y aura aussi des repérages au sol qui permettra d'avoir une traçabilité sur les chemins à parcourir pour pouvoir emprunter le transport en commun. L'amélioration, bien évidemment, des parkings relais, on connaît aussi la force de Keolis par rapport à l'aménagement, à la réponse aussi des parkings relais. L'objectif, c'est comment faire de la rétention de véhicules pour pouvoir accéder au transport en commun avec une tarification cohérente et avec une communication adaptée. Keolis a également un taux de couverture des charges plus importantes et l'information en temps réel. C'est-à-dire que les deux candidats ont proposé des solutions innovantes, mais Keolis a proposé un complément de valorisation du partenariat avec le tissu universitaire pour entrer dans l'intégration de l'information et de la communication avec, dans le cadre, par exemple, d'un hackathon. Le plan commercial, puisque c'est quand même le sujet et la communication, en part de budget, il représente plus de 4% chez Keolis. C'est-à-dire que dans ce plan d'action commerciale, l'inquiétude au quotidien va être une action à la fois d'écoute, de compréhension d'un écosystème, d'une intelligence collective, pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait que nous avons des freins sur notre territoire pour prendre le transport en commun. Donc tous les freins doivent être gommés. Déjà, avant d'être gommés, il faut qu'ils soient bien compris. Donc Keolis insiste sur cette logique de remettre le client au cœur de la conception de l'offre, qui est déclinée également sur un axe managérial, c'est-à-dire que sur l'ensemble des salariés et des employés de l'entreprise, tout le monde sera bien sûr sur cette démarche qualitative. Le troisième critère, les candidats se distinguent par l'expertise de, les deux candidats se sont distingués par une équipe de direction qui est proposée, mais Keolis présente une meilleure offre en proposant la création d'une direction qualité, hygiène, sécurité, environnement. Keolis est également, dans ce projet d'entreprise, propose la mise à disposition de 8 agents experts sur le plan national qui ont fait leurs preuves pour assurer la direction. Sur le plan social, comme vient le souligner M. le Président, pas de plan social de l'emploi, pas de licenciement. Sur la fin du contrat, nous arrivons sur les deux candidats avec le même nombre de chauffeurs-conducteurs. Donc sur cette partie, je dirais, nous avons été très attentifs, puisque l'autorité délégante, bien évidemment, le président vient de préciser que l'amendement précise et construira ce groupe mobilité, où l'ensemble des sensibilités seront représentées, avec un travail, même si nous ne sommes pas, en tant qu'autorité délégante, bien évidemment, RH de l'entreprise, mais nous serons aussi attentifs sur cette dimension humaine. Et comme vous le savez, nous y sommes attachés, puisque dans notre projet métropolitain, nous sommes bien dans ce projet des liens. Et en matière de reporting, les propositions des deux candidats sont conformes aux exigences de la métropole. Voilà, mes chers collègues, rapidement. Donc, on termine avec cette frise qui reprend sur 2019, donc à partir du 1er janvier 2019, avec la reprise du réseau. Une construction qui permet aujourd'hui, avec l'ensemble des élus, de pouvoir travailler sur le schéma de transport pour pouvoir le présenter au mois de mai 2019 au Conseil métropolitain pour avoir un temps de mettre en œuvre cette politique qui sera à la fois partagée avec l'ensemble des acteurs et notamment avec l'ensemble des maires pour mettre en place dès septembre 2019 ce nouveau réseau.
Merci à Malika Dati. Demande de parole du maire de Vendeuve. Monsieur le maire de Vendeuve, vous avez la parole.
Je pense que d'autres demanderont la parole certainement, et c'est important qu'on ait aujourd'hui cet échange-là, parce que c'est une question qui est fondamentale, on le sait, c'est l'avenir de la métropole se joue aussi et surtout sur un certain nombre de choses, l'habitat, mais aussi la mobilité, les transports. Et c'est vraiment un engagement qui est fondamental, en tout cas pour l'avenir de la métropole. Et de ce point de vue-là, il est normal qu'on puisse engager un véritable dialogue, non seulement avec l'entreprise qui est retenue, mais avec le personnel, parce que l'image de la métropole, l'image des transports, c'est pas seulement, comme Malika l'a rappelé, elle a eu raison, et c'est convaincant, la concertation qui va avoir lieu, on le voit à travers l'amendement qui va être proposé avec le délégataire et puis avec les services de la métropole pour regarder commune par commune les tracés, l'évolution, etc. Mais c'est aussi et surtout avec le personnel de l'entreprise, parce que l'image qui est donnée, c'est le travail quotidien, et ça, on doit, et on le sait, nous, en tant que maire et avec les élus, avec toutes nos différences, qu'on peut avoir entre les communes. On est tous d'accord pour reconnaître que c'est un travail qui est extrêmement difficile parce qu'il y a un public très hétérogène et parce qu'au quotidien, on le sait, on a des témoignages, il y a des étudiants, effectivement, il y a des salariés, il y a des gens qui sont en difficulté, il y a des quartiers qui ne sont pas tous les mêmes les uns que les autres et l'honneur et la reconnaissance doit revenir aussi et surtout au personnel parce qu'il faut rassurer, il faut que cette dimension humaine, qui est une dimension fondamentale, soit intégrée à l'amendement-là. Moi, je demanderais que quand vous dites, et là, bien sûr, on a été convaincus, mais vous dites qu'il y a une constitution d'un groupe de travail mobilité animé par la vice-présidente, Mme Malika Dati, avec les communes, le délégataire et puis évidemment la métropole, il faut aussi insister sur le fait d'associer aussi le personnel d'une façon ou d'une autre, parce que c'est vrai, des personnes qu'on a rencontrées nous ont dit, nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans ces services-là, on connaît la situation, et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en exergue, en avant dans cet amendement-là, parce qu'on ne peut pas faire sans le personnel. Donc mettez-vous à la place de celles et ceux qui ont appris, et on le sait, il y a peut-être eu, je ne sais pas si c'est un raté, mais qui ont appris par leur entreprise que le nouveau délégataire allait être quelqu'un d'autre que l'entreprise dans laquelle ils étaient. Donc automatiquement, un certain nombre d'inquiétudes, de fortes inquiétudes, quand on songe qu'il y a 800 personnes qui sont concernées, il y a des familles qui s'inquiètent, parce qu'il y a des batailles qui ont été menées, on l'a vu ces dernières années à travers la presse ou à travers les différentes luttes pour défendre des acquis. Il faut pouvoir rassurer, le président tout à l'heure de la métropole l'a bien signalé, et évidemment il y a vraiment une vigilance qui doit avoir lieu, mais il faut insister et il faut effectivement montrer aujourd'hui dans cet amendement qu'on sera vigilant. Donc peut-être qu'il est nécessaire à travers les échanges qu'on va avoir de rajouter certains éléments et cette dimension humaine et cet accompagnement qui doit avoir lieu, parce qu'il faut rassurer celles et ceux qui représentent la métropole, qui représentent aussi le transport, parce que ce sont eux au quotidien qui sont les artisans de la réussite. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est sincère. Et donc il reste encore un pas à faire, certainement. On ne pouvait pas le faire avant parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dévoiler. Mais en même temps, les choses se sont sues. Et alors, effectivement, des questions se sont posées. Et on ne pouvait pas apporter certaines informations. Mais maintenant, on sait, on en sait plus. Donc, il faut aller peut-être plus loin parce que le choix qui va être fait aujourd'hui est un choix fondamental. Donc, je crois qu'on va pas continuer l'échange maintenant, mais vraiment rassurer celles et ceux qui travaillent au quotidien. Voilà, merci.
Alors, Madame Khirouni, au nom du groupe.
Merci, Monsieur le maire. Il ne s'agit pas de ma première intervention.
Monsieur le maire, non, pas tout à fait.
Pardon ?
Monsieur le maire.
Ah, pardon. Excusez-moi.
Je suis désolé.
Non. Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est pas mon intervention principale. Nous constatons un malaise important et nous voyons bien les difficultés auxquelles vous êtes confrontés par rapport à cette délibération. Moi, avant d'engager les débats, je souhaite quand même reposer le cadre de votre proposition. Parce qu'on est d'accord, vous ajoutez donc un septième point, donc qui est la constitution d'un groupe de travail mobilité, au sein de cette délibération qui en comptait déjà six. Ce sont six points qui n'étaient pas du tout du même ordre et finalement vous nous demandez de voter un PAC avec sept points. Je rappelle quand même les points, c'est approuver le choix de la société Keolis en tant que nouveau délégataire, c'est d'approuver le contrat de service public de mobilité urbaine et ses annexes conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2019, c'est d'approuver les dispositions tarifaires, de vous autoriser bien évidemment à effectuer tous les actes nécessaires, d'autoriser le versement d'une indemnité pour Transdev et bien évidemment de financer ces dépenses. Je pense que le vote est plus du tout le même entre les six premiers points et la Constitution, on pourrait dire, naturellement, pour lesquels nous, on pourrait être favorables d'une commission de travail. Donc, je souhaiterais, Monsieur le Président, une suspension de séance pour en discuter avec mon groupe.
Merci. La suspension étant de droit, vous voulez combien ? 10 minutes ?
Oui, 10 minutes.
Ouais, pas plus, pas moins. Parfait, la séance est suspendue.
Allez, en route. Bon. Allez voir si là, les 10 minutes sont terminées là.
Bien, mes chers collègues, est-ce que tout le monde... Allez. Messieurs les adjoints au maire de Nancy, veuillez trouver une place. Souhaitez-vous la parole, Madame la Présidente ?
Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, sous cette 19e délibération, discrètement insérée dans le ventre mou de votre ordre du jour,
je me sens personnellement visé, là.
Se joue, non, une décision politique capitale pour les usagers des transports, pour l'ensemble des habitants de notre agglomération, puisqu'elle définit les choix cruciaux en matière de déplacement. Métropole du Grand Nancy, Eurocité humaine, ce slogan s'affiche sur tous nos murs. Mais où est l'humain dans la méthode inadaptée que vous avez choisie pour cette décision majeure concernant les déplacements de demain ? Chacun ici connaît les obligations de confidentialité propres à la procédure de délégation de services publics. Vous les avez rappelées d'ailleurs à plusieurs reprises ces derniers mois. Les élus métropolitains de tous bords politiques ne devaient divulguer aucune information. Tous étaient soumis à cette discipline, sauf un, vous, Monsieur le Président, puisque vous vous êtes autorisé à briser les règles qui s'imposaient à tous. C'est donc par la presse locale que nous avons appris le changement de délégataire proposé et le choix de Keolis en lieu et place de Transdev. C'est la première grave erreur dans cette procédure. D'autre part, devait être présenté aux élus dans une commission spécifique, la commission infrastructure, les informations complètes, comparatives, qui ont amené au choix du nouveau délégataire. À la lecture du compte-rendu de la commission, qui ne retranscrit pas l'intégralité des propos tenus, nous apprenons que l'ensemble des élus métropolitains présents, y compris les élus de votre propre majorité, déplorent l'absence d'informations nécessaires à la validation de l'offre retenue. En effet, en se déplaçant à cette commission, les élus espéraient pouvoir enfin prendre connaissance des offres des deux candidats, Keolis et Transdev, les raisons du choix de l'un ou l'autre et l'organisation du réseau de bus prévu dans leur commune. Mais là encore, la frustration fut totale, aucun plan, aucun tableau comparatif et plus globalement, aucune information nouvelle remise ou projetée. Systématiquement, à chaque interpellation, les élus se sont vus opposer une fin de non-recevoir et ne reçurent pour toute réponse qu'une invitation à venir consulter les 1000 pages du dossier complet. Toutes les questions ont été laissées sans réponse ou renvoyées à plus tard, après le vote de la délégation et la signature du contrat. Au final, sur les 7 élus métropolitains présents, 4 se sont abstenus, faute de pouvoir exprimer un vote en toute connaissance de cause. Parmi les abstentionnistes, nous comptons 2 élus de votre majorité. Depuis de longs mois, vous avez travaillé en catimini sur le réseau de transport, sans associer ni les maires, ni les élus, ni les associations. Après le vote de la délibération, quelles réponses serons-nous capables d'apporter aux questions des usagers des transports de notre agglomération ? Sur les raisons du choix du nouveau délégataire, sur l'organisation du réseau, sur les déplacements en vélo, sur l'articulation avec le nouveau tram. Les maires eux-mêmes ne savent pas si telle ou telle ligne de proximité sera maintenue ou pas. Tel arrêt, telle correspondance, quels quartiers seront desservis ? Au sein de cette nouvelle offre de mobilité, fleurissent de nouvelles dénominations exotiques et mystérieuses. Comment pourrons-nous rassurer les riverains sur les avantages des lignes Tempo 3+, Corolle ou autre appellation inconnue sans avoir été ni concertée ni informée ? Sur un dossier aussi sensible que celui des transports et compte tenu des errements passés, comment avez-vous pu foncer seul, Monsieur le Président, tête baissée, sans même associer les élus, les usagers, les associations ? Car que pouvons-nous espérer des futurs ateliers promis, si ce n'est quelques changements cosmétiques ou superficiels ici et là ? J'évoque bien évidemment des ateliers qui étaient prévus dans la délibération et non pas l'amendement que vous proposez. Voici actée une nouvelle occasion manquée au terme de 20 ans d'échecs en matière de politique de transport que notre groupe n'a eu de cesse de dénoncer. Plutôt que de nous rassembler, votre méthode a donc contribué à diviser, y compris au sein de votre majorité, car je sais que beaucoup d'entre nous partagent tout bas mes propos, même si certains n'oseront pas l'exprimer. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui à devoir acter par un vote un choix, Sans le détail des offres comparatives, il paraît que le candidat pressenti propose mieux, propose plus. Tout cela, nous devons le croire sur parole, les raisons du choix du nouveau délégataire étant trop opaques, elles suscitent dès lors de légitimes inquiétudes. Dans tous les cas, malheureusement, quel que soit ce délégataire, le changement de politique de déplacement, tant espéré par les usagers et les associations, devra encore attendre un prochain contrat, puisque les objectifs et les principes que vous avez fixés dans cette DSP traduisent une offre de service dégradée, animée uniquement par une logique budgétaire. Et comment pourrait-il en être autrement lorsque vous ambitionnez de diminuer fortement la contribution du Grand Nancy ? Votre politique pour les transports en commun n'a pas évolué et n'évoluera donc pas dans le bon sens. Fréquences et réseaux continueront à se réduire, contrairement aux tarifs toujours à la hausse. Ce cercle vicieux ne se brise pas et crée une véritable fracture entre les territoires et les quartiers. Ainsi, le réseau est pensé et organisé autour de 4 lignes structurantes, les plus rentables. Pour le reste, les usagers attendront le bus, tels les vagabonds de Samuel Beckett qui attendent Godot. Là encore, comme j'avais pu le dénoncer ici même en mai dernier, lors de notre débat relatif au tram, nous payons cher vos choix désastreux en matière de déplacement et notamment l'actuelle ligne 1, dont le coût d'entretien faramineux a creusé la dette de la communauté urbaine d'hier et de la métropole d'aujourd'hui. Car plus que jamais, le réseau STAN sert de variable d'ajustement budgétaire pour tenter d'endiguer l'endettement colossal du Grand Nancy. Aussi, je le répète, vous nous proposez une future baisse de la contribution forfaitaire qui entraînera une nouvelle baisse du nombre de kilomètres commerciaux, elle-même entraînant une cascade de conséquences. Vous nous expliquez que le futur délégataire va faire mieux avec moins d'argent. Comment ? Nous l'ignorons et nous sommes dans l'obligation de vous accorder une confiance aveugle pour un changement qui sera effectif dans un mois. Un mois, Monsieur le Président, un mois pendant lequel rien n'est dit de la transition, pas plus que de l'accompagnement du changement pour les équipes en place, laissées dans une incertitude totale. Qu'en sera-t-il du sort des salariés de Transdev ? On évoquerait une centaine d'emplois en moins. Le personnel du délégataire actuel est inquiet, légitimement. Ils ont interpellé les élus et vous ont adressé un courrier. Nous les avons rencontrés, ils nous ont dit leur angoisse, leurs préoccupations et leur incompréhension. Que va-t-il advenir de leurs emplois ? Dans un contexte de chômage et de crise, cette question est cruciale. Quelle suite sera donnée aux salariés en contrat précaire, intérimaire et CDD ? Comment le réseau continuera-t-il à fonctionner et dans quelle mesure sera assurée la continuité du service public ? En réunion de l'exécutif, vous cherchez à rassurer en expliquant qu'il n'y aura pas de réduction d'effectifs à l'exception des départs à la retraite. Mais comment obtenir des garanties sur le maintien des emplois et sur l'ensemble des demandes formulées par le personnel, alors que vous poursuivez votre politique de rationalisation du réseau STAN. Monsieur le Président, les salariés attendent des réponses claires à ces différentes questions. Enfin, vos derniers choix fixés dans cette DSP en matière de transport confirment l'absence de réel intérêt de la métropole, comme de la ville de Nancy, pour les enjeux écologiques. Vous en restez au slogan. En effet, la baisse des kilomètres commerciaux, l'augmentation des tarifs, vont à l'encontre de la transition écologique, alors que plus de 15 000 scientifiques exhortent l'humanité à freiner la destruction de l'environnement et avertissent « Si nous voulons éviter de grandes misères humaines, il est indispensable d'opérer un changement profond dans cette gestion de la Terre et de la vie qu'elle recèle. » Cette nouvelle DSP démontre une nouvelle fois que, confrontés aux vrais choix, l'écologie et la transition écologique ne sont pas et ne seront jamais vos sujets. Et s'il était encore besoin de preuves, l'aménagement à plusieurs millions d'euros du mémorial des îles et le fiasco de la rue du Tapis Vert illustrent le peu de cas que vous faites des pistes cyclables. Non, définitivement, 2018 ne sera pas à Nancy l'année de la transition écologique, sauf bien entendu dans les revues municipales et métropolitaines. Monsieur le Président, pour l'heure, vous l'avez compris, la méthode employée, l'opacité du contenu même de la DSP, 20 ans d'échecs et de promesses non tenues en matière de déplacement, ne nous permettent pas de vous accorder ce blanc-seing que vous nous demandez. Nous ne pouvons pas choisir un délégataire uniquement, comme l'a dit Malika Dati lors de cette commission, à sa façon de nous raconter une histoire. Alors notre groupe vous propose, concernant l'amendement, un vote favorable. En revanche, concernant la délibération, aucun des élus de notre groupe ne votera favorablement. Je vous remercie.
Très bien. Je vous répondrai tout à l'heure. Je ne veux pas interrompre la la discussion. Il y avait des demandes de parole de monsieur le maire de Lanneville, puis d'Arthur-Bart.
Oui, monsieur le président, mes chers collègues, la délibération qui nous est proposée ce jour concerne donc l'attribution à un délégataire du service public des mobilités urbaines de notre métropole pour les 6 prochaines années. C'est donc un engagement important pour cette Assemblée qui, dans sa composition actuelle, ne vivra qu'un peu plus d'un an l'évolution de ce contrat. Ainsi va le calendrier, mais le plus important est d'assurer, par-delà les hommes et leur mandat, la continuité des services publics, c'est-à-dire la continuité des services au public. Ce n'est plus vraiment un secret, mais y en a-t-il encore dans le monde aujourd'hui ? La proposition qui nous est faite est donc de confier cette nouvelle délégation à la société Keolis S.A. Les mots et les noms, fût-ce de marque, ayant toujours dans mon esprit une signification logique que je cherche à comprendre, je me suis penché sur l'origine du mot Keolis. Et j'ai appris qu'il avait été choisi à la suite d'une recherche de nom confiée à un bureau. J'avais, et vous avez certainement une idée, une intuition sur ce nom Keolis, mais j'ai préféré avoir confirmation. Keolis, c'est à la fois Khéops et sa pyramide, symbole de force et d'envergure, et Éole, le dieu du vent, qui fait référence au voyage, au mouvement, à la fluidité. La contraction originale des deux pour donner Keolis correspond finalement assez bien à notre dossier et à notre volonté politique affichée en matière de transports urbains. Nous voulons en effet disposer d'un réseau permettant une progression du nombre de voyages, qu'il soit en mouvement ordonné et coordonné, qu'il apporte une meilleure fluidité des trafics, eu égard notamment à la future mise en service d'un tram ferré devant générer moins de trafic automobile. Nous voulons qu'il constitue aussi l'une des forces de l'attractivité de notre territoire. Son envergure spatiale devra résulter d'une bonne imbrication avec les lignes suburbaines et les autres modes de déplacement. Keolis ne peut et se doit donc d'honorer son nom sur le Grand Nancy. Ce vendredi 23 novembre 2018 marque l'aboutissement d'un long parcours entre le 3 mai 2017, jour de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, et aujourd'hui. Pour autant, rien n'est fini, rien ne s'arrête après notre décision imminente, et je dirais même que nous ne sommes qu'à une étape, si majeure soit-elle. L'amendement le montre. En effet, dès le 1er janvier prochain, date de prise en responsabilité de notre réseau par le nouveau délégataire, le dossier va vivre plus fortement encore, tout en demeurant naturellement dans le cadre du contrat de délégation et de son économie globale, d'où la difficulté de l'exercice. À partir de cette date, un dialogue entre le délégataire et les maires, en tant que porte-parole de leurs administrés, va s'instaurer. Les propositions des noms des lignes nécessiteront des éclairements en direction des élus et des usagers, car les termes utilisés pour les définir ne nous sont pas encore familiers. Corolle, Tempo, Rezago, Citadine nécessitent une acculturation. Toutes ces lignes, même si une partie se calque sur le schéma actuel des transports, devront donc être analysées plus en profondeur par les vrais acteurs de terrain que sont les élus. Par cette concertation, des adaptations locales seront probablement proposées afin d'optimiser le service aux usagers et rendre le réseau attractif. Des adaptations plus marquantes seront aussi de mise lorsque la plateforme du tram ferré sera en travaux et que le service aux usagers de cette ligne devra se poursuivre. Ce sera aussi l'occasion de bien mettre en cohérence le réseau urbain et les lignes du bassin de vie. En effet, nous ne pouvons plus raisonner aujourd'hui et plus encore demain à l'intérieur d'un périmètre fermé de la métropole, mais nous devons co-construire avec les autres autorités organisatrices des transports du bassin de vie un schéma global et partagé des mobilités. On le perçoit assez bien, je pense. Il s'agit de rendre ce dossier vivant, car c'est sa vocation, afin qu'il participe pleinement, et je le souligne une nouvelle fois, à l'attractivité de la métropole. Dès le 1er janvier prochain, si vous en décidez ainsi, nous allons donc travailler avec une nouvelle société délégataire. Elle n'est naturellement pas inconnue dans le paysage des transports urbains, notamment français, mais elle est aussi connue plus localement dans notre bassin de vie puisqu'elle est présente sur les lignes suburbaines. Elle n'arrive donc pas en terre complètement inconnue. Pour autant, le plus dur lui reste à faire, mais j'ai le sentiment que Keolis aura à cœur d'honorer son contrat avec sérieux, car la société a une obligation de résultat. On dit souvent que la confiance se mérite, alors je forme le vœu que cette belle expression soit au rendez-vous à chaque jour de vie du contrat. Pour autant, je voudrais ajouter, même si ça a été dit, que si cette compétition DSP entre deux majors des transports urbains a été de bon niveau, la société Transdev nous a remis, elle aussi, une offre finale conforme au dossier de consultation et une offre de qualité. Cela justifie pleinement l'indemnité proposée à hauteur maximale de 100 000 euros dans le cadre de cette délibération. L'analyse des offres et les réunions de négociation ont montré que les deux sociétés en course ont proposé des offres suffisamment différenciées pour que l'on aboutisse à un choix clair à la fin de ces phases de négociation menées sous l'autorité politique de Malika Dati. J'ajoute que l'écoute, le respect mutuel et la parfaite équité entre les deux concurrents ont été scrupuleusement respectés lors de ces phases. Changer de délégataire dans un service public important n'est pas anodin, mais c'est la loi des marchés et les compétiteurs le savent. Confier la gestion d'une compétence à un partenaire ne défalque en rien la responsabilité de la métropole vis-à-vis de ses habitants et usagers. Il faudra donc veiller à la concrétisation des objectifs clairement affichés par notre intercommunalité, et notamment l'augmentation de la fréquentation des transports en commun, assise elle-même en partie, au moins, au travers de la maquette financière retenue et de la politique tarifaire. Le programme contractuel intègre énormément de choses et son suivi nécessitera un important investissement de la part de nos services dont la compétence est indéniable. Enfin, et parce que dans tout dossier, il y a toujours une dimension humaine, je souhaite que le changement de délégataire se fasse dans les meilleures conditions pour les personnels de conduite et de contrôle qui sont confrontés au quotidien à la diversité des usagers transportés et au comportement de certains voyageurs indélicats pour rester mesurés dans mon propos. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. La parole est à Jean-Pierre Dessin.
Oui, Président, chers collègues. On nous demande de délibérer et de voter pour approuver le choix du délégataire, donc de la société Keolis. Si j'avoue que je n'ai rien à dire sur l'examen du dossier par les services, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et je leur laisse l'analyse de cette partie technique. Pour autant que nous sommes bien d'accord depuis hier, et ce sera mon seul accord, sur le choix de la société et pas sur le choix des modifications répartition de lignes, horaires ou autres prestations. Si en tant que vice-président, nous apprenons ici à travailler ensemble et à se faire confiance les uns les autres, je vais me devoir à un moment donné aussi mettre ma casquette de maire. Et j'avoue qu'au vu des explications qui nous ont été fournies hier, et il est vrai, c'est un peu tard parce que seulement hier, ce qui nous a donné pour le coup pas assez de temps pour pouvoir échanger, ce qui aurait peut-être évité certains soucis, ces explications qui nous ont été données hier et qui étaient, on va se le dire, plus que confuses. On n'a pas réussi à répondre à nos questions, on n'a pas réussi à mettre les chiffres en face des cases. C'était une réunion et une explication qui a été préparée à l'arrache, ce qui fait qu'à la fin, quand vous avez des vice-présidents qui veulent comprendre et des maires qui veulent comprendre pour pouvoir expliquer les dossiers à leurs concitoyens derrière, forcément, ça a bloqué. Mais on va dire que c'était un couac. Et je ne doute pas que le reste du dossier ait été bien mené. On va faire donc confiance pour la suite. Je tiens à vous affirmer ici, avec ma casquette de maire, que je serai vigilant quant aux services à apporter aux habitants de ma commune. J'en rappelle juste quelques-uns, pour mémoire, la problématique de la traversée de Tomblaine, qui rajoute 15 à 20 minutes sur le trajet principal de sortie de ma commune, la problématique des départs annulés en permanence, que ce soit à Nancy ou Ars-sur-Meurthe, et ces derniers mois, ça a vraiment donné un service transport catastrophique, et la problématique des cartes scolaires qui sont bloquées sur des horaires dans la journée. Je sais qu'hier, ça a été un point chaud de notre discussion. Je ne lâcherai pas quand on offre un service gratuit aux collégiens. Le rendre aussi restrictif, c'est vraiment avoir oublié comment fonctionnent les horaires dans un collège. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie de cette décision, certes un peu tardive, mais qui a le mérite d'être là, de créer un groupe ad hoc pour travailler sur le corps du contrat avec Keolis et quelques élus, au moins sur la partie ligne horaire. Et bien sûr, je suis candidat pour participer à ce groupe, vous l'aurez compris. Mais je répondrai négativement à votre demande faite ce matin de vous envoyer nos remarques et doléances par écrit. En effet, comme vous n'avez jamais répondu à mes courriers vous interpellant directement sur le sujet et les problématiques de déplacement des Arcouais et Beausservillois, je vais donc éviter, faisons un petit peu de développement durable, de gâcher encore du papier et de l'encre. Je vous attends donc dans les réunions de travail et je voterai évidemment pour.
Merci, Monsieur Romain Pironnet.
Oui, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Je ne vais pas redévelopper, mais je suis en total accord avec ce point-là, mais le volet, disons, la nécessité d'avoir une attention particulière à la question sociale autour de cette délibération, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit précédemment par les différentes interventions, d'où qu'elles viennent. L'âge faisant, je prends aussi quelques cheveux blancs, du coup je me mets parfois à radoter, donc je voudrais profiter de, et on me les fait remarquer, mes cheveux blancs régulièrement, je voudrais rappeler une de mes marottes, une double marotte, une double préoccupation qui est pas de mon fait, hein, qui émane de ce que me disent les utilisateurs quotidiens des transports en commun dans notre métropole, et je vais commencer par celle que vous connaissez bien, qui est le problème de la desserte de Brabois. Alors, c'est pas l'objet de la délibération aujourd'hui, mais je saisis la balle au bon, puisque Malika Dati l'a évoqué brièvement. C'est aussi, quelque part, je vais y revenir, une opportunité d'en parler au travers de l'amendement qui nous est proposé. Et je voudrais dire qu'il y a déjà encore aujourd'hui des marges de progression qui existent, compte tenu de la situation que peuvent rencontrer les passagers, notamment le matin. Je sais que des efforts ont été faits, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. On va avoir une autre échéance à laquelle il faudra qu'on soit vigilant, qui sera la rentrée de septembre 2019, avec du coup le nouveau délégataire, sous réserve bien sûr que l'Assemblée vote pour. Et puis on aura bien sûr une phase critique au travers de la période de travaux, qui est évoquée bien sûr dans la délibération, avec un dispositif qui est prévu à cet égard. Mais puisque les perspectives autour de l'avenir de la ligne 1 ont été dévoilées il y a quelques semaines, notamment en lien avec Christophe Chaudreau. Ben, du coup, conséquence logique, l'inquiétude monte parmi les usagers. On en a discuté avec Malika et Christophe il y a pas très longtemps. Il faudra aussi qu'on trouve les moyens d'apporter toutes les garanties en lien avec le délégataire, quel qu'il soit, pour faire en sorte que cette période de travaux se passe le mieux possible. Deuxième marotte, et là c'est vraiment pour le coup une interpellation qui vient du monde étudiant, dont je me fais régulièrement le relais dans cette enceinte, c'est la préoccupation pour une offre de service nocturne. Alors il en est aussi question dans ces délibérations, mais le sujet est plus compliqué qu'il n'y paraît, puisqu'on avait déjà expérimenté des choses par le passé à plusieurs reprises, avec plus ou moins de bonheur, et la situation en fait est compliquée du fait de la géographie des campus nancéens. C'est en partie ça qui explique qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à trouver des solutions viables, mais je pense qu'on aura un travail intéressant à faire dans les prochains mois sur ce volet-là. Et c'est aussi pour cette raison que je salue cette proposition de monter ce petit groupe de travail qui a été évoqué dans le cadre de l'amendement. Et je ne peux que demander, mais je l'avais aussi demandé sur la question de la montée sur le plateau de Brabois, je ne peux que demander que le Conseil de la vie étudiante et le Conseil de développement durable soient partie prenante de ce groupe de travail et que les usagers soient bien sûr associés très étroitement aux réflexions qui vont être menées dans ce cadre-là. Je vous remercie.
Monsieur, attendez voir, j'ai une liste d'intervenants. Monsieur Pironnet, Monsieur Dessin, Monsieur Werner.
Oui, écoutez, je ne suis pas certain de tout comprendre. J'ai vraiment l'impression qu'on mélange tout. Plus exactement, sous le rapport de notre collègue Malika, je comprenais bien, on avait un appel d'offres pour un exploitant, on avait examiné les propositions de ces exploitants, on avait classé selon des critères parfaitement préétablis et totalement transparents, disponibles à l'ensemble de cette assemblée, puisque nous avons lancé cet appel d'offres, si je puis me permettre, nous avions tout ça. Et on nous en présentait les résultats. Jusque-là, j'étais dans un univers que je comprenais. Après, là où je comprends moins, c'est que nous serions censés aujourd'hui, subrepticement ou par obligation, je n'ai pas très bien compris, derrière le choix d'un exploitant, entériner une politique générale de transport, allant jusqu'à la porte des îles, où je m'ai un peu échappé. Sincèrement, si nous avions fait ça, que n'aurions-nous entendu? En revanche, je le dis parce que tout le monde n'est peut-être pas habitué de cette discussion sur l'exploitant de notre réseau de transport en commun. Ce que j'entends de la part de l'opposition, c'est ce qu'on a entendu à chaque fois avant sur... Alors on nous reprochait à ce moment-là de renouveler l'exploitant historique. Là, on nous reproche de ne pas renouveler l'exploitant historique et de ne pas reprendre complètement une politique de transport. Mais on va la reprendre, si je puis me permettre. Dans l'histoire de nos délibérations, nous avons toujours eu des moments où on choisissait un exploitant et des moments où nous choisissions un réseau de transport avec des lignes, avec des fréquences, avec éventuellement des aménagements de ces aspects-là. Donc par bonheur, heureusement qu'aujourd'hui on ne choisit pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document ? Il y a simplement le fait que, évidemment, un exploitant ne peut pas arriver en disant « ben, j'exploite pour ce prix-là et dans ces conditions-là un réseau que je ne connais pas ». Donc cet exploitant, à un moment donné, il propose, il avance, il suggère et il nous dit comment il imagine de proposer les choses. Heureusement qu'il peut proposer et il a toujours proposé. Donc c'est ça qui est joint. Et puis ensuite, on a toujours eu... Et en totale transparence, pardon, mais on a toujours eu en totale transparence et en travail bilatéral un travail avec les communes. Donc je ne vois pas ce qui change. Ce qui change, c'est l'exploitant. Et là, je veux avoir évidemment une pensée et de la considération. C'est que ce n'est pas facile, et je pense en particulier que ce n'est pas facile, ni d'ailleurs pour les exploitants qui n'ont pas gagné, et pour les personnels qui sont aujourd'hui dans l'inquiétude et dans l'incertitude. C'est normal, il faut l'entendre et il faut l'accompagner. Sur ce plan-là, j'en suis d'accord. Mais en revanche, par pitié, que ce ne soit pas le jour où on présente une délégation de services publics qu'on révise notre politique de transport en commun. En revanche, à nouveau, un certain nombre d'engagements en matière de développement durable et de façon d'optimiser l'exploitation du réseau nous permettent de voir avancer un certain nombre de choses sur ce plan-là, notamment par la mise en cohérence, effectivement, avec des réseaux et des modes de transport extérieurs. Quand même, le matin, l'empilement d'un certain nombre de bus d'origines différentes ne peut pas manquer de nous interpeller. Donc, voilà, ces discussions-là, ensuite, sur le réseau, elles vont pouvoir reprendre. Et personnellement, je dois dire que personne ne m'a interrogé sur le point de vue ou la vision du transport sur Villée, et que je considère ça comme totalement normal. On aura un temps pour en parler et on en parlera dans les conditions qui s'imposent. Donc je ne voudrais pas qu'on mélange tout. Aujourd'hui, on a une DSP et je voudrais rendre hommage au travail rapporté par Malika et réalisé par l'ensemble des participants. Je n'ai participé, moi, qu'à l'ouverture des plis sur la recevabilité il y a un an.
Monsieur Passalfini.
Oui, en quelques mots, un petit peu comme François, pour vous dire que chaque fois qu'il y a finalement un vote sur un délégataire, très rapidement, on extrapole sur un certain nombre de choses. Moi, je n'ai pas participé, évidemment... à ce groupe animé par Malika. Néanmoins, j'ai entièrement confiance à la fois dans Malika, mais aussi dans le groupe qui a travaillé. Les résultats sont précis. C'est sur des critères hiérarchisés, sur des critères bien amenés. Et puis, effectivement, le délégataire, même l'exploitant aujourd'hui qui a perdu, voilà, il a fait ses propositions. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux belles propositions. Et comme tout choix de délégataire, il y a un ou deux perdants pour un gagnant. Donc aujourd'hui, moi, je pense évidemment, et on l'a vu très tôt, sur des personnels qui, comment dirais-je, nous ont contactés, sur probablement la difficulté pour eux d'appréhender ce passage. Et aujourd'hui, je crois qu'on a, en tout cas dans l'appréciation qu'a décrite Malika, là, la volonté quand même sur le futur délégataire de faire extrêmement attention et d'engager un dialogue social pour en faire en sorte que les personnels soient rapidement rassurés. C'est ça qui est intéressant. Derrière le réseau, quand on parle Porte des Îles, c'est pas l'objet de la délibération. On peut être d'accord, pas d'accord avec la Porte des Îles, mais en tout cas, c'est pas l'objet même de ces délibérations. Donc, moi, ce que je crois aujourd'hui, ce qui est important, et moi, je remercie le président d'avoir opté depuis quelques jours sur l'idée de créer un groupe ad hoc, parce que ce groupe ad hoc, c'est là que ça va nous permettre, nous, maires, de travailler en amont avec le délégataire, parce qu'effectivement, il y a des grandes attentes sur aujourd'hui, ce que je dis, moi, en tout cas, un service qui se dégrade. Voilà, Jean-Pierre Dessart fait allusion à un certain nombre de choses. Enfin, je ne vais pas faire un petit peu un catalogue à la Prévert de ce qui se passe aussi pas bien sur ma ville en matière de transport, mais ce qui est sûr, c'est qu'on attend mieux. Et j'espère que le délégataire que nous avons choisi aujourd'hui, que nous allons choisir aujourd'hui, va répondre aux attentes, à nos attentes déjà en tant que métropole, mais aussi aux attentes de nos concitoyens. Et demain, avec cette nouvelle colonne dorsale que sera le futur tram, il va y avoir un tas de choses qui vont être imaginées. Donc on sera probablement plus sur le même réseau qu'aujourd'hui. Mais voilà, moi, tout ce que j'attends aujourd'hui, c'est vraiment un progrès pour les personnels, un progrès pour, effectivement, pour la métropole et aussi un progrès pour nos concitoyens.
Monsieur le Président Jacquemin.
Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Oui, plutôt que d'écouter, disons, des donneurs de leçons, hein, comme l'a fait Monsieur Werner, là, moi, je préfère rendre vivant le dossier, comme l'a dit notre collègue Serge Bouly. Effectivement, cette délibération est très importante. Nous le savons, puisqu'il engage par le choix ce qui sera fait et ce qui sera nécessaire de découvrir au niveau synergie avec un nouveau délégataire pour la concession de notre service public des transports pour les 6 ans à venir. Alors, ces objectifs me conviennent en grande partie, puisqu'ils visent l'amélioration de la qualité du dit service et la recherche d'améliorer sa fréquentation. Mais ils subissent certaines ombres, je ne suis pas d'accord avec toutes, mais elles ont été signalées par Mme Khirouni, je n'y reviendrai pas. Ce que je veux voir, c'est que le cadre est désormais la grande agglomération nancéenne, le bassin de vie. Et c'est important de rechercher cette soudure efficace entre la métropole et son hinterland. Peu l'ont signalé, je trouve que c'est dommage parce qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Au moment où les Gilets jaunes préparent à manifester à Paris, c'est une des réponses à leur apporter, cette volonté de connecter différents modes de transport public afin d'aider nos concitoyens à utiliser des moyens de transport moins onéreux, mais s'adaptant à leurs besoins, à leurs attentes de déplacement. Le travail, on le sait, est encore long. Alors qu'il nous reste à inventer concrètement ce que seront les autorités organisatrices des mobilités, et ça c'est un gros travail qui nous attend, la DSP devient un contrat de gestion d'exploitation. C'est-à-dire en incluant les transports publics urbains, mais d'autres services aussi. Moi je l'ai compris, je veux le comprendre comme ça. C'est-à-dire les TER, futurs tram-train, ils sont quand même signalés. Certains parlent des vélos, c'est inéluctable. Moi, je parlerai de trottinettes électriques sur le parvis de la gare, parce qu'il va peut-être falloir que ce parvis devienne, pour de bon, le parvis des mobilités, avec des renseignements précis d'utilisation, de parcours, de durée, d'attente, de prix, un lieu plein de bulles d'informations claires pour aider nos concitoyens à voyager en transport urbain. Ça m'apparaît fondamental. Ceci afin d'assurer la promotion et la progression efficace du réseau des mobilités de la métropole urbi et orbi, comme il est dit. Alors, maintenant, faisons-le. Alors, je suis prêt à faire, moi, partie du groupe de travail mobilité, puisque déjà, étant au syndicat mixte des transports urbains, je n'étais pas trop au début, mais je le suis de plus en plus, et j'entends mes collègues qui disent « Et ma commune !» Alors effectivement, c'est important, mais on a quand même une autre vision des choses au niveau des transports à travers notre métropole. Servons nos concitoyens. Arrêtons de ramener ça à nos périmètres permanents. Voilà. Ceci dit, je ne me désolidariserai pas de mon groupe, je m'abstiendrai, moi.
Merci, Monsieur le Président. C'est pas un petit dossier qui est devant nous, c'est la question des transports et la gestion des transports sur les années à venir. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de délibération et bien remettre en perspective cette délibération qui nous est présentée cet après-midi. La première délibération qui a eu une grande importance ici et qui a été soumise au vote des conseillers métropolitains, c'était la délibération qui a fixé le cahier des charges de cette délibération, de ce choix, et ça a été d'ailleurs la base de la réponse des deux Transdev et Keolis par rapport à ce qui nous est soumis cet après-midi. On a eu un cahier des charges et on a dessiné les contours de ce que l'on souhaitait par rapport à cette réponse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, je voudrais ici le redire, et je voudrais saluer, et on se connaît bien maintenant avec Malika Dati, on travaille de nombreux sujets, la rigueur de son travail et la rigueur de son analyse par rapport à ce travail. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est la question des salariés aujourd'hui qui peuvent se sentir inquiets par rapport à nos discussions et par rapport à ce que l'on envisage. Et je crois, et c'est un point que moi j'ai regardé dans la réponse qui a été donnée du traitement des salariés de l'entreprise Transdev aujourd'hui, qui Keolis demain, de la situation sociale et du suivi social de ces salariés. Le troisième point, c'est un point qui m'intéresse plus particulièrement, pardon de le dire, mais qui n'est pas un petit sujet, c'est la question des futurs travaux de la ligne 1. Ça va être une période qui va être difficile à gérer. Et moi, c'est un point que j'ai regardé de manière très précise sur la réponse des deux candidats. Et le candidat qui nous est présenté cet après-midi, Keolis, est un candidat qui a géré une situation analogue à celle que le Grand Nancy va devoir gérer. Il a géré la situation de Caen, qui avait le même système bombardier et qui est passé à un tramway sur rail, donc exactement la même situation. Et je dois dire ici, et je suis prêt à en débattre, que les solutions qui sont proposées par Keolis sont pour le moins très innovantes et très pertinentes par rapport à la gestion de cette période de travaux. Et ça, ce n'est pas un petit sujet, parce que Romain l'a rappelé, on est déjà en situation difficile, compliquée sur la montée de Brabois. Imaginez pendant la période de travaux, ça risque d'être encore plus compliqué. Et donc les prises en compte ont été importantes. Quant à l'amendement qui est proposé, je crois que c'est important. Je crois que cet amendement est important parce que la constitution d'un groupe de travail, d'un comité de suivi, appelons-le comme vous le souhaitez, est essentielle pour associer les maires à l'organisation des transports sur son intégralité, sur la métropole du Grand Nancy. Mais j'ai le sentiment aussi, et François Werner nous l'a dit, que le choix entre Keolis et Transdev ne va pas changer foncièrement, en tout cas ce qui est proposé dans le dossier, si on le regarde, n'a pas changé foncièrement l'organisation des transports. C'est bien de notre responsabilité de choisir une bonne méthode de transport. Et j'ai envie de vous dire que même ce que l'on va choisir dès maintenant, avec la mise en place de la ligne 1 de tramway, ça va de toute façon révolutionner les transports de la métropole. Il suffit de regarder des métropoles qui viennent de mettre en service des tramways, Besançon, Dijon, Brest, Caen bientôt. Évidemment, le réseau de transport est complètement transformé. Je prends juste un seul exemple que tout le monde comprendra. Aujourd'hui, on évite de rabattre la ligne vers la ligne 1 parce qu'elle est déjà saturée. Demain, avec un tramway qui va avoir une capacité double, on va avoir un système qui sera plus en arrêt de poisson. Et donc, tous les transports de la métropole vont être complètement transformés. Donc, aujourd'hui, il s'agit de choisir un délégataire. Sur les points qui ont été posés, l'étude qui a été proposée par Malika montre que Keolis a répondu de manière plus positive ou pertinente, tout ce que vous voulez, par rapport à ces points-là. Et donc, la question qui nous est posée cet après-midi, c'est bien le choix d'un délégataire. La question de la politique des transports est une question qui, à mon avis, et je l'espère, ne dépend pas simplement du choix entre Keolis ou Transdev, parce que ça veut donc dire que nous, élus en responsabilité politique, nous serions soumis à un choix de délégataire pour imaginer notre politique de transport. Et je pense que pour le coup, ça serait tragique de notre situation. La politique des transports, c'est bien une politique, une volonté politique qui est posée pour choisir quel type de transport que l'on souhaite. Donc voilà, évidemment, ce groupe de travail doit être mis, Monsieur le Président, le plus vite en place. Je dois dire que la proposition du maire de Vendôme me séduit également. Son sous-amendement à l'amendement, si j'ose dire, de mettre dans ce groupe de travail des représentants du personnel, parce qu'ils doivent être écoutés, ils doivent être entendus, et donc je serai assez favorable au sous-amendement du maire de Vendôme. Merci beaucoup.
Bien, alors, j'ai encore quelques inscrits. Monsieur Breuil.
Oui, Monsieur le Président, j'entends bien.
Pardon, j'ai inscrit encore M. Breuil, M. Thierry Coulon, M. Donati. Je prends la dernière. Bonjour. Oui. Comment il s'appelle ?
Il y a Carole Brunner aussi.
Carole Brunner.
M. Poncelet.
M. Brunner, pardon. Monsieur Poncelet. Voilà, on s'arrête là. Terminé après. Alors, qui. Monsieur, allez-y, monsieur Breuil. Hein? Avec votre bon sourire.
Monsieur le Président, j'entends bien les discours. On nous dit, là, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, la délégation, on change de délégataire et on n'est pas en train de refaire un réseau. Certes, on n'est pas en train de refaire un réseau. Mais jusqu'à hier matin, qu'est-ce qui nous était proposé? Il nous était proposé de prendre un nouveau délégataire qui allait travailler d'une façon différente, qui allait organiser différemment ses dessertes. Et on lui disait, à la fin du compte, ce sera beaucoup mieux, mais on fera des économies de kilomètres, on fera des économies de véhicules, on fera certainement des économies en personnel. Certes, avec la distribution, avec des rabattements différents, avec l'arrivée du nouveau tram, on peut l'entendre. Mais on lui demandait quand même de valider cette délibération, et puis nous dire, vous verrez bien après, ce sera forcément mieux. Et lorsqu'on vous a demandé de faire un groupe de travail, bien sûr, j'adhérerai totalement à ce groupe de travail, il était quand même bien normal qu'on puisse participer un peu à cette élaboration, et qu'on puisse, en groupe de travail, à la fois élaboré avec les élus, voire les usagers, et puis surtout prendre un peu de temps, prendre 4 à 6 mois, et après à nouveau valider ce travail-là. C'est pour ça qu'effectivement, on n'est pas en train d'organiser un nouveau réseau, mais finalement, nous dire on change de légataire, et puis vous verrez bien après, ce sera mieux. C'est donc, effectivement, moi je remercie ce groupe de travail, bien sûr, j'adhère aussi à ce groupe de travail. Et non, on ne se trompe pas de délégation. La délégation, elle prend certes le changement de légataire, mais aussi la modification du réseau.
Merci. Alors, Monsieur Thierry Coulon.
Monsieur le Président, mes chers collègues, juste quelques mots. D'abord, le choix d'aujourd'hui entre Transdev et Keolis devrait nous rassurer parce que ces sociétés se comparent ailleurs. Et aujourd'hui, on envisage que Keolis se substitue à Transdev. Il y a des endroits où c'est Transdev qui se substitue à Keolis. Si on savait par ailleurs que ça se passait mal, on le saurait et on serait inquiet. Ce n'est pas le cas. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on a connu ça dans l'eau avec des grosses sociétés qui se suivaient les unes derrière les autres. Je suis assez rassuré, même si toutes les précautions doivent être prises pour que les personnels et en tous les cas leur situation soit prise en compte. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que je voudrais répondre à Madame Chironi, qui est plus dans la posture, et on comprend pourquoi, que la rue du tapis vert, c'est pas un fiasco. Ce serait un fiasco s'il n'y avait pas la pente cyclable. Parce qu'aujourd'hui, la rue du tapis vert, elle a la pente cyclable. Et que ça satisfait tout le monde, et qu'il n'y a personne sur cette bande cyclable, et que les cyclistes l'utilisent. Et donc le fiasco, c'eût été de faire un renouvellement d'une rue sans prévoir le vélo. Et là où je voudrais dire, et ça me permet de rebondir sur la transition écologique, dans la nouvelle délégation, bien sûr qu'il va falloir négocier, comme l'a très bien dit Christophe Chosereau, sur lequel vraiment il est limpide là-dessus, c'est on va presque doubler la capacité, je ne dis pas tout à fait, mais ça pourrait même, effectivement, on pourrait doubler la capacité. Et donc, on peut comprendre que quand on double la capacité, d'une part, on aura des recettes supplémentaires parce que c'est peut-être une facilité d'avoir des recettes sur le tram plus facilement que sur certains réseaux de bus. Et deuxièmement, que les kilomètres parcourus peuvent être inférieurs avec plus de gens transportés. Et donc, tout le monde peut le comprendre, à moins que vous ne puissiez le comprendre, et ce qui m'étonne. Et par ailleurs, et ça tout le monde le sait, puisque on va le revoter bientôt, mais le tram, on sait ce que c'est. Et sur ce tram, tout au long, il y aura le vélo d'ailleurs. Ça, c'est juste un petit aparté qui est très important quand même. Et c'est. Et je ne vois pas ce que vient faire la Porte des Îles là-dedans, mais bon. Écoutez, on est en zone 30, il faudrait y apprendre la loi un peu. Et donc. Mais non, mais je vous réponds. Et donc, on est.
Essayez d'être un peu discipliné.
Voilà, on est dans une situation où, au contraire, dans l'histoire de la transition écologique, ce nouveau tram qui va porter les 50 à 60 000 minimum, et moi je pense que ça sera plus de gens par jour, c'est des milliers de voitures en moins. On n'arrête pas de le répéter. On ne sait pas. On ne peut pas dire aujourd'hui si c'est 3 000, 4 000, 5 000. On ne sait pas. Mais c'est des milliers de voitures en moins. Et ça, c'est une certitude. On le saura après, quand on refera les comptes. Mais parce que ces gens-là, aujourd'hui, bien sûr, ils peuvent déjà être à pied et prendre le tram parce qu'il ne sera pas complet, qu'aujourd'hui, on peut savoir qu'il y a des gens qui marchent le long de la ligne parce qu'ils se disent « je ne veux pas rentrer dans un tram bondé ».
Mais il y a aussi tout simplement des gens qui vont dire la fréquence est assurée, la qualité est assurée, et moi j'abandonne ma bagnole et je ne la prends pas. Et donc dans la transition écologique, au contraire, tout ça, ça prend tout son sens. Enfin, je voudrais conclure sur l'idée qu'effectivement, comme l'a dit François Werner, aujourd'hui on ne doit pas se tromper de sujet, c'est le choix entre deux délégataires, mais que comme tous les autres intervenants, évidemment cet amendement sur une constitution d'un groupe de travail, il est très important, je trouve qu'il équilibre sainement ce qui a déjà été proposé. Je remercie le président de l'avoir fait, et d'ailleurs on a l'exemple, ce qui a été fait dans le cadre de la même, qui est venu de la même, des mêmes doutes sur la ligne 1, ben ça s'est soldé par une unanimité qui a fini par un trajet innovant sur une situation innovante qui n'avait pas forcément été prévue, avec un accord de tous. Bon, donc on peut se faire confiance là pour le coup, quelles que soient les appartenances politiques, parce qu'on a su montrer précédemment qu'on pouvait tenir compte de l'avis de tous et d'obtenir un consensus. C'est ce que je pense qui va arriver, et c'est ce dont je ne doute pas. Bien sûr, je voterai pour.
Merci, Madame Brunner.
Merci, Monsieur le Président, mes très chers collègues. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter toutes les interventions. Je n'interviens pas souvent, mais là, aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse
docteur,
plus particulièrement.
Ne nous quittez pas, docteur.
Oui, docteur, ne nous quitte pas. Écoute mon intervention.
Bah, avant un vote aussi important. Ne quittez pas la salle d'attente.
Alors, très vite, ce que je souhaitais dire, c'est déjà féliciter l'audace et la prise de décision de la métropole. Parce que faire un choix, c'est aussi prendre ses responsabilités. Et faire le meilleur choix, le meilleur service au bénéfice de nos concitoyens, c'est important. Donc, choisir un autre délégataire est un choix responsable. Si Transdev, aujourd'hui, nous a posé quelques interrogations sur la façon de faire, sur le fonctionnement, je trouve que c'est très bien que la métropole ait su capitaliser sur les atouts et sur les marges de progrès et ait choisi le meilleur délégataire. Voilà, donc la volonté de faire ensemble, ça commence aussi dans un choix concerté et surtout dans la co-construction, puisqu'il y a un groupe de travail qui est proposé justement pour accompagner l'évolution. Et donc aujourd'hui, choisir des outils innovants, comme c'est proposé avec ce délégataire, eh ben, je souhaitais à nouveau dire que c'était un très bon choix et féliciter les acteurs qui ont osé changer de délégataire. Voilà.
Merci. Monsieur Poncelet.
Merci. Alors, comment faire croire des choses et en faire d'autres? C'est à la mise en œuvre d'une entourloupe à laquelle nous assistons. Car les transports ne s'arrêtent pas en 2024 à la fin de la DSP. La lecture des documents qui nous ont été fournis permettent de préciser pour les transports à venir, 4 phases et non pas 3, Monsieur le Président. 2019-2020, on continue avec le système Bombardier actuel, avec une refonte de certaines lignes en septembre. 21-22, les travaux pour la ligne du tramway de la Porte Verte jusqu'aux Nations sont mis en œuvre. Des bus remplaçant la ligne 1 et une ligne Tempo dite 3 ira de la gare à Brabois, en passant par le Vélodrome. Troisième phase, 2023-2024, mise en service de la ligne de tramway et Tempo 3 continue entre le Vélodrome et Brabois. La DSP s'arrête ici. Et quatrième phase, 25-26, voire travaux pour monter à Brabois. Mais peut-être, car dépendra de la volonté de la future nouvelle majorité de la métropole après 2020. Ce qu'il faut donc que les utilisateurs retiennent, c'est qu'il y aura des bus jusqu'à Brabois pendant au moins 7 ans et des perturbations dues aux travaux tout au long de cette période. C'est pourquoi il faut faire la montée à Brabois en même temps. Je peux m'exprimer, oui ?
Écoutez-vous,
je peux m'exprimer ?
Et puis vous
écoutez. En même temps.
Monsieur Poncelet, vous écouterez aussi la réponse en son temps de celui qui est
bien entendu,
chargé.
Tout à fait.
Voilà.
Bien entendu. Alors, donc, c'est pourquoi il faut faire la montée à Brabois en même temps que celle de la ligne du futur tramway. Il faut donc revoir la DSP. C'est une proposition pour les prochaines échéances électorales en 2020. Je pense que ça va dans ce tempo. De plus, l'étude de la mise en place d'une régie directe des transports et des mobilités à partir de 2025, date de fin de la concession, étude qui appliquerait les choix dégagés lors d'une large consultation de la population et des usagers des transports en commun du bassin de vie. Le principe directeur et fédérateur étant l'urgence à mettre en place de la transformation écologique dans notre pays. Seul un contrôle par la population et par les élus, par la prise en main directe de l'organisation de la compétence transport et mobilité garantira cela. L'État devra fournir les moyens financiers nécessaires pour l'investissement et la future ligne et pour assurer la gratuité aux usagers lors d'un changement de politique intervenant en 2022. Ce qui se passe pour cette DSP, où tout a été décidé par quelques-uns dans une grande opacité, n'est pas acceptable. Et l'amendement que vous proposez pour limiter la grogne des maires n'y changera rien. En votant pour cette délibération, on accepte la possibilité que le tramway ne monte pas à bras-bois. C'est pourquoi il faut voter contre.
Monsieur Donati, tiens, c'est bizarre ça. Mais on montera à bras-bois, monsieur Donati, vous le savez.
J'espère aussi. Donc, on a une délibération pour le choix d'un délégataire.
Malika, c'est à vous.
Mais vous savez aussi bien que moi, en lisant cette délibération, que cette délibération, elle va bien au-delà du choix du délégataire. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je suis élu, mais je suis surtout un usager. Alors, j'ai aimé, dans cette proposition, les bus de nuit. J'ai aimé un transport qui roulera plus fréquemment, même durant les vacances scolaires. J'ai aimé l'option de prêt de vélo le long des lignes, ce qui me paraît intéressant, pour les cyclistes, comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai aimé l'obligation accrue pour le délégataire de mieux respecter les courses par des pénalités accrues. J'ai aimé la volonté de connecter les bus intra-urbain au bus à l'extérieur, dans le bassin de vie. Par contre, je suis inquiet de devoir revoir le réseau actuel en 2019, alors que les travaux vont commencer en 2021 et que lorsqu'ils seront terminés, c'est-à-dire que lorsqu'on aura le nouveau réseau, la nouvelle trame, il faudra à nouveau revoir le réseau pour des raisons évidentes en 2024. Là, personnellement, je ne comprends pas comment nous, usagers, on va s'y reconnaître par autant de changements de réseau en si peu de temps. Si nous avions eu le même délégataire, vous savez aussi bien que moi que le réseau était vu à la marche, parce qu'il y a toujours des imperfections, mais certainement pas en profondeur. Donc là, il va falloir quand même y réfléchir. Je suis également inquiet par le phasage de la construction du nouveau tram qui est automatiquement induit dans cette délégation. D'une part, donc, la construction du nouveau tram de la partie basse avec une option jusqu'aux aiguillettes, faculté des sciences. Et puis après, plus rien, se demander même si Keolis est au courant qu'on doit monter à Brabois. Donc cela sous-entend très clairement construction du nouveau tram vers Brabois après 2024. Ce qui fait qu'en tant qu'usager, je suis inquiet de devoir prendre le bus sur une durée aussi longue. Je suis également offusqué qu'on me fasse payer plus cher à partir de 2024 le billet de tram, le billet de transport en commun, sous prétexte que j'aurai le tram jusqu'au vélodrome, alors que je devrais descendre et puis prendre un bus et monter à droite. C'est-à-dire que mon service sera dégradé. Et je pense que ça va concerner beaucoup, beaucoup d'usagers, en particulier nancéens. Je suis également inquiet, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, de la durée des travaux. Je suis un vieux de la vieille, je me souviens de ce qui s'est passé avec le tram précédent, au-delà des problèmes techniques. Et vous vous souvenez tous que de la souffrance de tous au moment de ces travaux, en particulier pour le personnel. Je vous remercie.
Je vais proposer à M. Chosereau de répondre sur le volet tram. Ensuite, Malika Dati répondra comme rapporteur et je vous dirai quelques mots en conclusion avant que nous passions au vote.
Merci, Monsieur le Président. J'avais prévu d'intervenir le 14 décembre. Le débat s'ouvre. Je vais m'y inscrire pour essayer de répondre de manière la plus objective possible. La ligne 1 de tramway qui vous est proposée est une ligne qui va faire 15 km, qui va avoir un budget de 412 millions d'euros hors taxes, qui va partir de la Porte Verte, qui va remonter par le centre-ville de Nancy, qui va arriver au Vélodrome, et au Vélodrome va se séparer en deux lignes, une ligne qui va aller vers l'Ination Robertval et une ligne qui va aller vers le plateau de Brabois en passant par le campus Science, pas simplement juste pour passer par le campus Science, mais pour desservir un endroit où on a beaucoup de personnel, d'étudiants, du lycée, de l'UFR Staps ou encore de l'IUT. Ça a été posé. Alors après, on peut ne pas être d'accord sur ce projet-là, mais en tout cas, c'est le projet dans lequel je me suis inscrit, j'ai proposé et je vais vous présenter le 14 décembre le dossier d'enquête publique. Le dossier d'enquête publique, ce Poncelet, pardon, ce n'est pas une délibération sur un coin de table, c'est un dossier qui va être sérieux avec un nombre d'annexes extrêmement importantes et avec un financement et un calendrier qui sera arrêté. Je me réserve le 14 décembre, comme c'était prévu, M. Poncelet, pour vous donner le calendrier. Donc ce sont des travaux qui vont être très très lourds. Donc on peut se le dire. On sait que ça va être de gros travaux. Maintenant, moi je suis encore à votre écoute, M. Poncelet, pour me donner votre solution. Votre solution. Moi, j'aimerais connaître votre solution et votre ligne 1 que vous souhaitez. Moi, j'essaie d'écouter le maximum de personnes, y compris pour la montée de Brabois. Parce que pour la montée de Brabois, j'aurais pu, comme vous me l'avez préconisé, de le faire sur un coin de table, présenter ça en exécutif et terminer. On a rassemblé, on a travaillé tout l'été pour trouver la meilleure solution. On peut la critiquer, mais c'est la meilleure solution pour monter sur le plateau de Brabois. On vous présentera un seul dossier d'enquête publique avec une seule DUP. Après les travaux, il faut qu'ils avancent. Alors moi, je veux bien écouter, vous écouter, et faire ce que vous voulez. Alors on peut très bien commencer par la montée de Brabois, et on aura la montée de Brabois de Vélodrome jusqu'à Brabois, mais sans un tramway qui arrive du centre-ville jusque-là. Je ne vois pas bien la cohérence de l'affaire. Les travaux, ils avancent par étapes. On commence à un bout A et on termine à un bout B. Et donc, ça avance progressivement. Les équipes, on ne peut pas les mettre partout. Donc, ça va avancer et il n'y a aucun intérêt, pour le coup, pardon de vous le dire, M. Poncelet, de faire monter un tramway de Vélodrome jusqu'à Brabois tant que le tramway n'arrive pas à Vélodrome. Je pense que ça, l'argument-là, on peut me le tourner en tous les sens, mais je vois pas le raisonnement intellectuel ou politique que vous pouvez m'opposer à cela. Donc, les choses vont avancer. Ça va être long. Ça va être très long, bien sûr, parce que ce sont des travaux qui vont être lourds. Je rappelle ici, mais je l'ai déjà dit, je vais le redire. Monter sur le plateau de Brabois est techniquement très compliqué. Et ce que l'on a prévu, ce que je vais vous présenter le 14 décembre, ce sont des infrastructures qui vont être extrêmement lourdes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À Caen, ils ont arrêté l'exploitation du bombardier au début des travaux. Et un système de substitution est mis en place. Évidemment, un système de substitution est mis en place. Je suis d'accord avec vous dans cette hypothèse-là. Il y aura des bus qui vont monter plateau de Brabois parce que la ligne sera arrêtée. Parce qu'à un moment donné, il faut l'arrêter pour attaquer les travaux. Si vous voulez, on ne peut non plus jamais l'arrêter. Mais je ne vois pas comment je fais les travaux, M. Poncelet. Donc, vous aussi, je suis à votre écoute pour savoir ce qui va se passer. Donc, je vous confirme en avant-première que les travaux vont commencer en 2021 et ils vont se poursuivre jusqu'à la fin du projet. Voilà ce que je peux vous dire. Et le calendrier vous sera donné. Si vous étiez à la réunion publique de la métropole, la mise en service de la ligne 1 pour monter sur le plateau de Brabois, une fois qu'elle sera terminée, sera aux alentours de 2025-2026. Je vous l'accorde, parce que c'est long. Alors, si vous avez des solutions, M. Poncelet, à nous donner pour aller plus vite, je suis preneur. Je suis preneur, mais accordez-moi au moins cela, qu'il n'y a aucun intérêt de faire Vélodrome Brabois sans amener le tramway jusqu'à Brabois. Mais peut-être que c'est votre solution, mais à ce moment-là, je pense que vous êtes bien à votre place et non pas comme conducteur de travaux. Merci beaucoup.
Bon, Malika Dati.
Alors, je poursuis sur les propos de Christophe Chausserot sur la montée de Brabois. Il y a un an et demi.
Un peu plus de force.
Voilà, il y a un an et demi, on ne le savait pas, puisque la concertation vient de produire justement cette possibilité de monter à Brabois avec le tram. D'ailleurs, les deux candidats, puisque si vous avez bien lu le contrat qui est à votre disposition, je dirais que les deux candidats ont répondu par rapport à cette donne. Alors, moi, je suis quand même ravie parce que vous voyez que les dossiers sur la mobilité, je dirais, impulsent un engouement. Et c'est un dossier passionnant, puisque c'est un dossier qui a une respiration à la fois territoriale et de vision pour notre métropole. Alors, c'est vrai, Monsieur Jacquemin, vous avez entièrement raison, puisque vous parliez de soudure, moi, je parlerai de couture, mais l'un, je dirais, est indissociable de l'autre, et ça sera avec plaisir de travailler ensemble. D'ailleurs, on a déjà l'habitude, et dans ce groupe mobilité, on va devoir aussi accompagner ce changement, puisque le réseau, c'est un changement en 2019, et qui est prévu également dans l'article 8.3, du contrat de la DSP, puisque nous rentrons dans cette logique de process annuel qui est issue de la concertation. Donc, comme vous le savez, c'est prévu. Madame Khirouni, alors, j'adore Beckett, mais j'ai l'impression que quand vous parlez de la stratégie de transport de notre métropole, j'espère que je me trompe, mais qu'on ne va pas être balancé au XVIIe siècle avec Blaise Pascal sur le carrosse des cinq sols. Je vous invite à lire. Alors, sur la présentation dans les commissions, les réunions, j'ai essayé de respecter, d'être garante du temple juridique, puisque vous avez été députée, et la loi Sapin 2 de 2016, le décret de 2018, nous impose bien évidemment un secret. Secret des affaires, secret industriel ou commercial. Nous aspirons à un temps de respiration démocratique, et vous le savez que je suis fortement attachée, et en même temps, on a un outil qui ne nous le permet pas toujours, puisque nous sommes dans ce cadre européen, ce nouveau cadre européen de DSP. La dimension humaine, j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble des chauffeurs, des conducteurs et des salariés de l'entreprise. Transdev, Keolis sont deux entreprises de très grande qualité. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le directeur, M. Philibert de Transdev, qui a fait un travail de qualité et travaillé d'avoir été pilote sur une équipe qui produit également un service de qualité. Je voudrais lui rendre hommage ce soir. À cette dimension, on est attaché, on l'a vu, ça a été des négociations pendant 16 heures avec les délégataires. La dimension humaine, pour moi, c'est le phare numéro un. C'est la dimension sociale, c'est donner du sens au projet d'entreprise. Et ce process qui est irrigué sur le plan managériel, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous donne cette assurance. Alors, sur la fin du contrat, les deux candidats, nous sommes sur un non-renouvellement naturel des départs en retraite. Mais les deux, on arrive sur le même chiffre à la fin du contrat. Vous parliez également, Madame Khirouni, des quartiers. Alors, les quartiers, je dirais, même sous l'ancien délégataire, les quartiers étaient connectés. Et d'ailleurs, si vous poursuivez et vous parcourez plutôt le rapport, il y a encore plus une respiration des quartiers, puisque vous verrez qu'il y a des pôles de centralité où il faut les connecter au bassin d'emploi et surtout au pôle de centralité d'emploi. Alors, cet espace partagé dans ce groupe, nous l'attendons bien sûr avec beaucoup de plaisir, et je pense que les échanges vont être très positifs. Et nous l'avons déjà démontré avec Christophe Chausereau dans le cadre de la ligne 1. Le tramway, comme vous le savez, mais je ne vais pas vous faire un état des lieux de tous les critères aujourd'hui, et tous les dispositifs et puis la valeur ajoutée apportée par un tramway de puissance que celui qu'on va connaître dans quelques années sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan développement, sur le plan aussi du dessin, de l'architecture, du paysage urbain, et on est en plein dans le PLUI HD qu'on mène avec Michel Canda. L'engagement Keolis s'est engagé plus de 25% de fréquentation d'ici 2024. C'est un engagement haut et fort. En tout cas, moi, j'ai envie de rester positive parce que ça a été un grand plaisir pour moi pendant ces deux mois sur ces négociations. C'est aussi une amorce de quelque chose. Là, on commence quelque chose parce qu'on change d'époque. On change d'époque sur le plan politique. Mais les usagers, eux, Ça fait un moment qu'ils ont changé d'époque. Ça fait déjà plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure des trottinettes, des gyropodes et encore. On ne sait pas ce qui va arriver, mais ça y est, c'est déjà parti. Regardez sur les trottoirs, sur les routes, sur les voiries. Donc la mobilité, on attend avec impatience la nouvelle loi sur les mobilités. Donc nous, il faut qu'on ait ce courage politique, il faut qu'on ait ce respect politique, parce que la mobilité fait partie de nos usages quotidiens, au plus près de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles. Et quand on donnera un service de qualité, quand on a une réponse, et quand elle est de qualité, elle est raisonnable et elle est acceptable. Voilà, je voudrais terminer mes propos sur ce sujet des mobilités qui prennent de plus en plus d'effervescence, de plus en plus de consistance, de plus en plus de présence, de plus en plus d'insistance, parce que c'est la vie de chacun, nos concitoyens, toujours, toujours, et ça j'y suis fortement attachée, au-delà de la dimension humaine, c'est l'intérêt général.
Merci très fortement, Malika. Alors, notre argentier, là, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Oh, simplement, Président, quelques mots pour dire que Malika nous aura conduit ce dossier parfaitement et elle arrive à nous passionner maintenant avec les mobilités. Moi, j'en suis très à l'aise. Alors, ce dossier donne un gagnant, bravo, un perdant, c'est dommage, mais c'est ainsi que vont les DSP. Moi, je voudrais donner quand même deux réponses. La première, on nous a fait un reproche en disant la ligne 1, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, c'est toujours la même chose. Sachez qu'on a passé plus de 48 000 validations il y a peu de temps par jour. Donc c'est quand même pas un chiffre qui dit qu'il n'y a personne, puisque 48 000 validations, c'est important. Première remarque. Deuxième remarque, ce sont sur l'endettement de la métropole est dû au transport. Sur les 680 millions d'endettement, les transports représentent à ce matin 142 800 000 euros, c'est précis, dont 85 millions pour la ligne 2, le reste étant essentiellement de l'acquisition de matériel. Voilà des chiffres qui permettent de dire que l'endettement de la métropole n'est pas attaché au transport. Merci.
Bien, merci à tous, y compris dans cette organisation un peu tactique de séance, parce que c'est normal et que c'est un gros enjeu pour les uns et pour les autres, et aujourd'hui et plus tard. Donc la qualité des documents, la qualité du débat, la respiration que nous apportons par notre amendement sur ce temps, et peut-être que là il y avait dans la présentation ou dans la conception, je dirais, de l'organisation publique des choses, un créneau qu'il fallait garantir. Et je pense que c'est l'objectif de l'amendement que j'ai présenté, dont on a débattu, on en a pris conscience ces temps-ci, et ça s'est confirmé hier matin, et en conférence des maires ce matin, tout le monde a consenti à dire que c'était un temps nécessaire, utile, parce que nous changeons de concessionnaire, d'entreprise, mais ça ne règle pas pour autant la fabrication, en quelque sorte. Et j'aime bien ce thème rapporté au mécanisme de transport, la fabrication avec, je dirais, des éléments du logo différents, d'une ligne et d'une méthode différente, avec des partenaires différents. Je voudrais, à ce moment de mon propos, rejoindre Malika sur l'opinion qu'elle a émise sur la direction actuelle, mais aussi dire d'emblée aux salariés qu'ils seront auditionnés par ce groupe de travail sur l'organisation des transports. On a besoin de leur expertise. On est dans une société aujourd'hui où toutes les forces d'expertise doivent être à un moment et de savoir rassemblées. C'est un débat de société, c'est plus un débat technique. Bien sûr qu'à un moment donné, il y a des questions techniques, bien sûr qu'il y a de l'argent, mais c'est quel type de société nous voulons demain et quel rôle les mobilités, quand on voit par exemple l'évolution du plateau de Brabois, la montée des universités, la réorganisation du CHU, il y a tout un certain nombre de paramètres et les mobilités sont la résultante. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est la résultante objective d'un état des lieux, du savoir-faire professionnel. C'est aussi la somme des ambitions, la somme, je dirais, des demandes, des additions. Bien sûr qu'il n'y aura pas, à un moment donné,
il faudra arbitrer. Je sais bien comment toujours ça se termine, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on se donne les conditions explicites garanties par le vote de cet amendement sur l'organisation de ce débat de co-construction avec le nouveau délégataire, que l'ensemble des partenaires territoriaux, sociétaux, je dirais, entre les salariés, les agents et je dirais le monde associatif et les usagers qui voudront bien le dire, parce que quand je vois l'utilisation du site, quand il y a eu l'étude et la concertation sur la ligne de tram, nous pouvons aussi recueillir beaucoup d'opinions de ce point de vue. On ne faut pas avoir la prétention ici de trancher tout en séance. Moi, ma responsabilité, je pense que c'est une innovation dans notre débat, c'est de garantir le débat, d'aider à l'organiser, de se donner un délai et puis de revenir devant cette Assemblée en ayant apporté la certitude qu'il était, à ce moment de notre vie, la meilleure solution possible. Alors, sur ces bases, je crois que nous avons de grands dossiers devant nous dans cette Assemblée. Et ces dossiers sont lourds, sont onéreux, comme l'a rappelé Pierre, sont des dossiers qui touchent à la ligne 1 du tram, sont des dossiers qui touchent à l'évolution, l'organisation. Il y a des grands dossiers importants. Il y a même un dossier important qui ne relève pas de nous, mais que personnellement j'ai beaucoup apprécié en tant qu'ancien maire de la ville, c'est la Porte des Îles. Je suis désolé, mais la Porte des Îles, aujourd'hui, il y avait 3000 personnes le jour du 11 novembre, et je pense qu'on ne peut pas, Madame Khirouni, c'est très amicalement, intégrer ce type de réflexion dans un débat, alors qu'à peine se termine la période du centenaire. Je l'ai ressenti comme ça, mais je l'ai senti simplement un tout petit peu décalé. Alors, je ne vais pas vous embêter de mes... Mais non, c'est pas scandaleux. Non, mais... Monsieur Masson. Eh ben oui, mais c'était aussi ça. Oui, ben écoutez, pour le moment, vous n'avez pas la parole, monsieur. Ben oui, ça donne quelle image de vous, hein? Quelle image, monsieur Masson? Quelle image? Non, vous n'avez pas la parole, je conclue et on va passer au vote. Chut. Je conclue et on va passer au vote. Je suis désolé, j'ai le droit aussi de répondre et je le fais avec sérénité. Je le fais avec sérénité. Et vous verrez, la honte s'est vite passée. Mais c'est pas votre procès qui est en cause. Mais non. Non. Oui, mais écoutez, on se calme. Mais si. Donc je conclue et je termine. Ben, c'est peut-être inadmissible pour vous, mais on va voter. Je suis désolé, mais je l'ai reçu comme ça et entendu comme ça. Croyez-vous que je n'écoute jamais tout ce qu'on me dit? Sinon, je ne serais pas là. Allez. Je vais donc vous demander, si vous voulez que je retire mes propos, je vais les retirer, mais vous les aurez entendus quand même. Vous les aurez entendus. Voilà. Eh bien, j'ai pris acte, mais ils auront été prononcés. Hein, je ne pourrais pas les retirer du procès verbal. Hein? Ben non. Oui. Bien. Bon, eh ben, allons pour les pistes cyclables. Nous sommes donc aujourd'hui sur un débat qui se termine, qui a été bien conduit. J'ai donné toutes les garanties, y compris pour, avec Malika, associer les travailleurs de Transdev, je dirais, à la période qui est devant nous. Je souhaite que le groupe que nous allons constituer très rapidement soit constitué de représentants de toutes les communes. Et ça, je crois que c'est parti pour ça. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement que vous avez tous sous les yeux. Alors, je mets aux voix cet amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Maintenant, je mets aux voix... Je mets aux voix la totalité du texte avec son amendement.
Qui est contre? L'administration a bien compté, noté. Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui est pour? Est-ce que l'administration est prête à donner le résultat?
Comment, président?
Oui. Bon, c'est donc adopté. Mais moi, je... Il n'y a pas de triomphalisme, hein. C'est l'intérêt général, et ce n'est pas un problème de rapport de force. Et je pense et j'espère que le groupe qui va se constituer va en démontrer la preuve. Alors, l'affaire suivante. Est au rapport de Michel Canda, Zach et Cotard-Cartier, Nancy Grandcœur, note de conjoncture.
Hey, Mimi.
Oui, président, chers collègues, donc courant 2017, nous avons principalement mené avec Solorem les différentes actions qui vont nous permettre dans les 12 prochains mois de mettre en service les aménagements nécessaires au fonctionnement du nouveau quartier, notamment sur son secteur central et préalable à la poursuite de son développement. Parmi celles-ci, il me semble important de souligner les travaux de génie civil et de réalisation des voiries et des réseaux qui ont permis de livrer cette année les premières tranches du parking implanté sur la rue Edmond de Charleroux, de la restructuration du pont des Fusillés et de l'aménagement du quai vert. La construction de nouveaux immeubles de bureaux et de logements qui représentent aujourd'hui, si l'on fait le total des mètres carrés construits depuis l'engagement effectif de la ZAC, à 92 000 m² de nouvelles surfaces construites, soit près de 60% de son programme prévisionnel. Concernant le financement de la ZAC et sa trésorerie, le bilan global de la ZAC, dépenses et recettes, a été actualisé à hauteur de 85 878 000 euros. Celui-ci comprend les dépenses qu'il a été nécessaire d'engager pour acquérir les terrains restants à maîtriser, en assurer la dépollution et l'aménagement, et pour actualiser les différents coûts inhérents à l'opération. Le retrait de l'indemnité compensatoire de la caserne de sapeurs-pompiers de Nancy-Joffre, étant rappelé que le projet a été engagé au début de cette année par la métropole en maîtrise d'ouvrage direct. Suite aux emprunts mobilisés par la Solorem en 2014 et 2017, représentant au total 12 millions d'euros, il est proposé de procéder à un emprunt du même montant et de mobiliser une enveloppe de 15 millions d'euros de ce crédit. Après avis favorable de la commission attractivité, il vous a donc proposé d'approuver l'évolution des données budgétaires globales de l'opération, d'autoriser la Solorem à mobiliser une enveloppe de 15 millions d'euros de crédit relais et un emprunt à terme de 12 millions d'euros. D'approuver la note de conjoncture 2017, d'autoriser le président ou son représentant à signer les actes correspondants.
Pas d'opposition, d'abstention, adopté. Affaire suivante, Michel.
Alors, éco-quartier à Vendeuvre, les Nancy, bilan d'approbation de la note de conjoncture 2017. La Solorem présente aujourd'hui la note de conjoncture 2017 ainsi que le bilan prévisionnel de la concession d'aménagement de l'écoquartier Bianca Maria à Vendeuvre. Début 2018, la métropole a souhaité remettre une candidature pour l'obtention de l'étape 3 du label écoquartier. La Solorem a donc contribué à la rédaction de ce dossier remis le 15 mai 2018 à l'État. Les travaux d'espace public d'EFAS A, B et C sont terminés, à l'exception de certains aménagements de voirie définitives réalisés au fur et à mesure de la livraison des constructions. Concernant la commercialisation les programmes de Bouygues, Nexity, MMH, Novemia, Batigère, Akieris sont livrés au sein des phases A et B. Pour les opérations en cours de réalisation, la SCI Entreprise et Médecine du Travail commencent les travaux du futur bâtiment à vocation de bureau et de cabinet de consultation. Enfin, de Mathieu Hébard prévoit une livraison de son programme pour fin 2018, ainsi que le second programme Novemia, implanté sur l'îlot A9. Concernant les secteurs situés de part et d'autre du boulevard Bartou, les démarches pour le lancement de la commercialisation de l'îlot 1 du secteur E sont en cours et en lien avec la démarche TIGA des hommes et des arbres, afin de faire de l'écoquartier un démonstrateur de la construction bois. Les dépenses de l'opération sont ainsi portées de 15 142 680 €, soit une augmentation représentant 0,3% du bilan. La participation du Grand Nancy reste quant à elle inchangée à hauteur d'1 788 560 € hors taxe. Afin de couvrir la durée de réalisation, la phase opérationnelle de la tranche 4, il est nécessaire de proroger la concession d'aménagement d'une durée de 4 ans, soit une échéance au 28 août 2024. À ce titre, l'enveloppe de crédit relais sera augmentée de 500 000 €, passant de 1 million à 1,5 million pour les besoins de trésorerie. Il vous a donc demandé d'approuver cette note de conjoncture.
Merci. Je vous prie d'excuser ma voix, mon enrouement. Merci, Michel. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées. Il reste une délibération, la ZAC de la Louvière à Séchamps.
Oui, donc afin de poursuivre l'aménagement de la ZAC de la Louvière à Séchamps, la métropole a décidé, par délibération en date du 29 septembre 2017, d'approuver le lancement d'une consultation en vue de confier cette opération d'aménagement à un prestataire sous forme d'une concession. Un avis d'appel public à la concurrence a donc été lancé. Seule l'offre de la Solorem a été reçue dans les délais. La commission DG s'est réunie afin de procéder à l'analyse de la candidature et a abouti à l'établissement d'un projet de traité de concession d'aménagement établi sur la base d'une durée de 8 ans. Son montant prévisionnel de 3 930 000 € à compter du 1er janvier 2019, ce qui comprend notamment une participation de la métropole en remise d'équipements publics à hauteur de 655 000 € hors taxe, soit 786 000 € TTC. Il vous est donc proposé de retenir cet aménageur présentant les capacités techniques et financières nécessaires pour conduire cette opération.
Merci. Monsieur le maire de Séchamps, où il est passé? Il est là, pas de problème. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Alors, Madame Carraro va s'emparer avec élégance et vitalité des questions de Madame Debord. Non, c'est Anne-Sophie Gavrilov, pardon. Oui, autant pour moi.
Merci, Président. Chers collègues, donc, il vous est proposé d'approuver l'avenant 2 à la Convention pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie pour la période 2018-2020. L'objet de cet avenant est l'augmentation du prix de rachat qui passe de 3,80 à 4,50.
Merci. Pas de demande d'explication. Tout va bien. Par la commission adoptée. La suivante, modification des conventions avec les personnes morales de droit public, le droit privé des personnes pour la valorisation des CET.
Oui, donc cette délibération fait suite à la précédente. Donc il est demandé d'approuver le montant des aides octroyées, hein, donc qui est revu à la hausse de 3,80 à 4,50 pour les communes et les personnes morales de droit public, qui passe à 4 € pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes physiques. Les conventions sont adaptées aux tarifs. Vous rappelez qu'il est proposé un tarif spécifique et un doublement des aides pour les ménages à faible revenu. Vous avez le tableau correspondant. Et vous signalez une nouveauté qui correspond à une simplification administrative, c'est puisque les particuliers peuvent désormais s'inscrire en ligne sur un site dédié.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Délibération suivante.
Oui, elle concerne le dispositif Cite-Énergie qui récompense la qualité de la politique énergie-climat. Vous rappelez que sur cette période de 4 ans qui s'achève, la métropole du Grand Nancy a été la première métropole Grand Est labellisée Cite-Énergie. Donc on arrive à terme de cette période. Il convient de renouveler. Un marché a été passé avec le cabinet Albea pour nous accompagner sur la période à venir et vous dire que cette démarche est accompagnée à hauteur de 70% par des aides de l'ADEME.
Merci. Monsieur Passalfini, réveillez-vous. Pas de discussion, pas d'opposition, adopté. Affaire suivante.
Oui, il vous est proposé de renouveler le dispositif concernant les récupérateurs d'eau pluviale pour 2 ans et de reconduire le règlement d'attribution avec une enveloppe estimée de 24 000 euros.
Le prof fait la fête à l'Élysée. Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Dernière délibération.
Oui, il vous est proposé de reconduire le plan de soutien aux énergies renouvelables, notamment concernant l'installation des capteurs solaires thermiques, là aussi pour 2 ans, à hauteur de 20 000 euros.
Merci. Même vote. Monsieur Jean-Pierre Dessin, projet de construction de nouvel habitat aux abords de la place Simone Veil, convention d'accès de passage dans le parking tiers.
Monsieur le Président, chers collègues, presque tout est dit. Sont ainsi prévues la réalisation d'une plateforme en continuité avec la place Simone Veil sous forme d'un espace public dont la vocation sera de compléter ceux qui ont été partiellement réalisés au niveau de la place. La réalisation par nouvel habitat sous le futur immeuble à construire d'un parking sur 2 niveaux souterrains réservé bien sûr aux futurs occupants de l'immeuble et la réalisation par le Grand Nancy des espaces de liaison entre le parking tiers et ce parking privé. Cette présente convention fixe les modalités techniques de fonctionnement de ces passages dont vous avez la liste dans le corps de la délibération. Parallèlement, sur les 10 premières années, le Grand Nancy indemnisera nouvel habitat pour un montant total de 100 000 euros, correspondant des travaux d'étanchéité des sous-sols de la copropriété rendus nécessaires du fait de l'existence en surface des espaces publics. Cette convention fixe les conditions de versement d'une redevance de 10 000 euros par an, révisable, correspondant à la servitude, qui est donc l'objet de cette délibération, servitude de passage octroyée à nouvel habitat puisqu'à la copropriété de l'immeuble, notamment au niveau du parking tiers. Cette redevance sera due tant que durera l'équipement.
Merci. Pas de remarques. Oui, monsieur le docteur.
On a bien compris qu'il y avait effectivement une redevance de 10 000 euros qui était versée à la métropole, que d'un autre côté, pendant 10 ans, la métropole versait 10 000, donc on arrivait à zéro. Qu'est-ce qui se passe au bout des 10 ans? Autrement dit, est-ce que tout s'arrête ou bien est-ce que la copropriété continue à verser 10 000 euros à la métropole pour le droit de passage? Ce n'est pas précisé dans la délibération.
Oui, excusez-moi. Alors, j'ai peut-être lu un peu rapidement, mais si cette convention fixe les conditions de versement d'une redevance de 10 000 euros hors taxe par an, révisable, bien sûr, indexable. Cette redevance sera due tant que durera l'équipement, ad vitam aeternam, enfin très longtemps, 30, 40, 50 ans. Nos 100 000 euros nous seront versés les 10 premières années, étalés sur les 10 premières années, pour payer une enveloppe de travaux de 100 000. Voilà. Mais d'accord, ça fait kiff-kiff, mais au moins chacun paye ce qu'il doit payer, les choses sont claires. Et ça nous permet, en rendant les choses très claires, de pouvoir nous arrêter de payer quand on a payé l'aménagement et laisser continuer le droit de passage que l'on vient prendre de 10 000 euros par an.
J'ajoute que ça a été évalué par les domaines. Je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Alors, lotissement du marché de gros, approbation du bilan de clôture de l'opération d'aménagement. Jean-Pierre.
Donc la convention d'aménagement qui portait sur 6 hectares 3 du lotissement de marché de Gros a été passée avec Solorem en 2006 pour une durée de 10 ans. Le programme a permis l'implantation de différentes entreprises. En 2015, suite aux négociations menées par le groupe de Monchy, les derniers espaces ont été vendus pour permettre l'installation de la société Locabox et d'une copropriété accueillant plusieurs activités. Au total, ce sont un peu plus de 63 000 m² qui ont été ainsi commercialisée. La convention d'aménagement est arrivée à son terme. Il convient d'approuver désormais le bilan de clôture et donner à Solorem le quitus de sa gestion. Le bilan de clôture fait apparaître un résultat excédentaire de l'aménagement d'un montant de 115 000 euros, 115 020 38 pour être précis. Pour autre, par ailleurs, en 2006, dans le cadre de cette opération, la Solorem a acquis auprès de la métropole un ensemble foncier, 24 000 m² non bâti. Le prix d'acquisition de 186 643,68 euros est payable au terme de la commercialisation du lotissement. On sera donc versé au Grand Nancy. Donc là, cette fois-ci, on additionne les deux sommes, 110 plus 168, qui doivent être versées au Grand Nancy. Enfin, l'acceptation du bilan de clôture permettra le transfert, évidemment, des espaces publics construits dans le domaine public métropolitain.
Très bien. Pas de remarques, pas d'opposition, d'abstention, adopté. Madame Piccoli, adaptation du tableau des effectifs.
Oui, effectivement. Au budget général, on peut compter la création de 10 postes d'adjoints techniques. Ça peut sembler quelque chose d'assez brutal et important, mais je vous rappelle que la métropole, qui exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, et étant comme le centre de supervision urbain, dit CSU, qui va être mis en place. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un service commun mutualisé commune-métropole. Bien sûr, il y aura une contrepartie financière des communes pour ce fonctionnement qui correspondront à peu près 2/3 du fonctionnement. Les 10 vont être service 24 sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième disposition, toujours au budget général, c'est la transformation de postes permanents d'un agent parti en retraite et de 2 agents suite à une réussite de concours. Pour le budget de l'eau, il y a aussi 2 transformations, toujours réussite à un concours, et au budget de l'assainissement, 1 transformation réussite à un concours.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition, adopté. Nous reviendrons tout à l'heure à la délibération numéro 2, donc ne vous sauvez pas dès qu'on arrive à la 33, parce que Mme Jurin étant revenue, nous allons pouvoir rapporter. Alors, M. Boulier, M. Kling, fonds d'eau 2018.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le cadre de la loi Houdin, Sentinelle-Grand Nancy a créé un fonds eau, je vous le rappelle, doté annuellement de 100 000 euros à destination d'actions de coopération et de développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Pour 2018, 4 dossiers ont été retenus par la Commission, qui en a examiné 6, et sont portés donc par des associations locales, notamment ARED et ADEVA Grand Est. L'exposé des motifs vous renseigne sur les objets, les coûts des opérations et le financement du Grand Nancy. Et pour cette session d'attribution, les subventions allouées par la métropole sont au total de 56 000 euros, dont 24 800 sont à engager cette année pour des opérations nouvelles. Voilà, Monsieur le Président.
Très bien, pas de remarques. Je pense qu'il serait peut-être intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et de globaliser peut-être sur une note un peu le récapitulatif de ces interventions sur le plan international qui ont une finalité sociale évidente, pour les rendre plus visibles. Pas d'opposition, adopté. Madame Dati, ligne 2 et ses grands projets adjacents, c'est des indemnisations résiduelles, en quelque sorte, de préjudices économiques.
Tout à fait, Monsieur le Président. Il s'agit d'une indemnisation d'un montant de 3 000 euros dans le cadre des travaux de la ligne 2 pour la société immobilière Maud Albi.
Merci. Pas d'opposition, adopté. Monsieur Kling, avenant numéro 4 au marché pour l'exploitation de la station d'épuration située à Maxéville.
Merci, Monsieur le Président. Avenant 4 qui concerne une prolongation de 3 mois pour l'exploitant Veolia, donc de la période qui va du 31 mars au 30 juin 2019. C'est une demande de prolongation dans le cadre de la consultation des candidats. Une incidence financière pour cet avenant 4 de l'ordre d'1 800 000 euros, ce qui représente 3,12% du marché initial. L'incidence cumulée des 4 avenants que nous avons engagés représente 3,6 millions, soit 6,3% du marché initial. Il est à noter que ce n'est pas un surcoût pour la collectivité, puisque dans tous les cas, cela nous aurait été facturé dans le cadre d'un nouveau délégataire. et donc certainement d'ailleurs plus cher qu'aujourd'hui. Donc on vous propose d'autoriser le président à signer cet avenant numéro 4.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Dernière délibération, Valérie Jurin, communication sur l'accessibilité aux personnes handicapées au titre de l'année 2017.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport 2017 est d'abord une œuvre évidemment collective. C'est le 13e rapport produit par la commission d'accessibilité du Grand Nancy, commission installée dès 2003 et qui aborde la notion d'accessibilité au sens large, lui donnant un sens universel et profondément transversal. En tant qu'employeur, le Grand Nancy affiche un taux d'emploi de travailleurs handicapés de 7,11 contre 6,76 l'année précédente. L'emploi des personnes handicapées donc est en hausse constante. Nous sommes au-delà du taux légal de 6%. Concernant les mobilités, la mise en accessibilité se poursuit. 75% des arrêts et stations hors tram sont aménagés contre 70% en 2016. Sur les 300 arrêts les plus fréquentés, il en reste quelques-uns, il en reste 3 en fait, à rendre accessibles. Enfin, au niveau du réseau Handistan, transport destiné aux personnes handicapées, la commission d'admission s'est réunie 6 fois. 926 personnes ont bénéficié donc de son service. Concernant la voirie, 98 passages piétons, 3 zones de rencontre, 4 escaliers, 7 places de stationnement ont été mises aux normes. 4 km ont été aménagés, cela s'ajoute évidemment à ceux qui ont déjà été réalisés les années précédentes. À noter le travail réalisé par l'école de la vie autonome de l'OHS sur Vendeuvre en 3 phases. Il s'agit d'améliorer l'accessibilité de la rue du Morvan à la rue du Vivarais. Concernant le cadre bâti, la démarche de mise en accessibilité se fait à travers l'agenda d'accessibilité programmée, l'ADAPT, approuvé en janvier 2016, d'une durée de 9 ans. Il est basé sur une dépense de 9 258 000 euros. Il prévoit la mise en accessibilité de 58 bâtiments. Les dépenses déjà réalisées à ce jour s'élèvent à 1 625 000 euros. Au terme de cette première période, 2016-2018, 18 bâtiments sont accessibles, dont le Lido, le Zénith et le MAN. 26% donc du patrimoine métropolitain est accessible. L'année 2017 a aussi été celle de la mise en place dans chaque établissement des registres publics d'accessibilité. Concernant l'habitat, le 6e programme local de l'habitat durable s'est attaché principalement à la connaissance de l'offre et des besoins en matière de places en structures spécialisées. Travail de recensement a été actualisé en 2017 et montre que le parc public compte 4 600 logements accessibles. S'ajoute à ce travail de recensement la production de logements aménagés par l'adaptation du parc existant et la production d'une offre nouvelle en lien étroit, évidemment, avec les bailleurs et UES. Dans le parc privé, le PIG a poursuivi ses actions en faveur du maintien à domicile et l'adaptation des logements. Les subventions spécifiques du Grand Nancy ont été maintenues à hauteur de 9 900 euros. Et le bilan des aides déléguées au Grand Nancy par l'ANA en termes d'adaptation au handicap s'élève à 174 000 euros pour 45 logements pour des propriétaires occupants. La suite du rapport reprend le détail des actions en faveur des personnes handicapées qui sont menées dans nos équipements sportifs, culturels et de loisirs. J'entends par là la maison du vélo, le pôle aquatique qui comptabilise plus de 20 000 entrées, le musée de l'histoire de fer, les jardins botaniques. Et je noterai simplement pour finir le label tourisme et handicap qui a remporté le MAN en 2017. Et cela vient saluer l'engagement exemplaire de cet équipement et de ses personnels.
Merci. Y a-t-il des interventions? Merci à Valérie. Merci aussi sur ces sujets difficiles à tous ceux qui sont actifs. Ils sont plusieurs dans les délégations respectives. Il est 17h23. Nous avons terminé nos travaux. Je vous remercie. Même si ça a été un peu animé, c'était globalement intéressant et passionnant. Et je vais aller soigner ma crève. La séance est levée.
mais je vais chercher chez Pascal. Non, mais j'ai rien compris. Il va y avoir Pascal.